نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc pour peut-être les frères qui étaient pas là, on avait commencé ce dars qui est un dars de Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, parmi les chiurs de la Sunna qui enseignent actuellement encore à l'université de Médine et à d'autres endroits à Médine. Et il a fait un dars sur, en Algérie, où il est invité, sur la taqwa, la piété, sa réalité et les faits de sa mise en application. Et on avait dit qu'on allait rapporter, et on a rapporté une définition qui est connue chez l'ulama comme la définition de Talq ibn Habib. Et on avait dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah, il avait dit que c'était la meilleure des définitions et la plus complète. Et on avait rapporté le contexte historique de cette définition, c'est-à-dire le contexte historique dans lequel Talq, il a dit cette parole-là. Et c'est quoi le contexte historique, vraiment de manière très résumée, parce qu'on a encore beaucoup de pages à voir, inshallah. C'est que il y a eu une fitna à l'époque de Ibn al-Ash'ath et de l'Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Ibn al-Ash'ath était un général de l'armée de l'Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, qui était sous le califat du calife Abdul Malik ibn Marwan. Et entre ces deux personnages, donc le général de l'armée et le gouverneur, il y avait une inimitié, ils se détestaient l'un l'autre. Et donc il a envoyé le général loin se battre contre le roi des Turcs, hein, pour qu'ils ne soient pas près du calife. Et donc il a envoyé aussi Sigistan combattre Rutbil, le roi des Turcs à l'époque, qui était un kafir. Sur le chemin, après avoir conquis certaines contrées, ils ont rencontré un froid glacial, ils se sont arrêtés, ils ont écrit une lettre à l'Hajjaj pour dire que les soldats devaient se reposer, etc. Et l'Hajjaj en a profité pour attaquer Ibn al-Ash'ath puisqu'il se détestait. Alors, qu'est-ce qu'Ibn al-Ash'ath il a fait, le général de l'armée, il a dit, si c'est comme ça, eh bien, il a fait une khutba à ses soldats et ils ont décidé de se rebeller contre le Hajjaj. Donc, de faire demi-tour et d'envoyer l'armée, non pas contre le roi des Turcs, mais contre Al-Hajjaj qui lui-même l'a envoyé. Et c'est comme ça que la fitna a commencé. Et que le père d'Ibn al-Ash'ath, Mohamed Ibn al-Ash'ath, parce que le fils c'est Abdurrahman Ibn al-Ash'ath, il a dit, eh bien, si c'est comme ça, si on va se rebeller contre le gouverneur, on se rebelle contre celui qui est au-dessus du gouverneur, c'est-à-dire le calife. Et donc, il y a une grande fitna, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Même certains des imams de la communauté sont morts dans cette fitna-là, ou en tout cas sont disparus, on ne sait même pas qu'est-ce qui leur est arrivé, notamment la fameuse nuit de Laylat al-Dujail. Et les gens venaient dans cette fitna-là, ils ont dit, si tu veux que les gens sortent avec toi, il faut que Al-Hassan al-Basri soit avec toi. Pourquoi? Parce que les gens ils vont voir que l'imam Al-Hassan al-Basri est avec toi, donc ils vont te suivre. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a refusé, ils l'ont emmené de force, il s'est jeté dans la rivière pour participer à la fitna, ils l'ont sorti de la rivière, etc. Après on a vu que les gens allaient chez quelqu'un qui s'appelle Talq ibn Habib et que cette personne-là, il lui demandait qu'est-ce qu'on doit faire dans la fitna, qu'est-ce qu'on doit faire dans la fitna. Et il leur disait toujours éteignez-la, repoussez-la avec la taqwa. Et il le disait tellement qu'à un moment ils lui ont dit mais c'est quoi cette taqwa? Et là donc il a défini la taqwa comme étant al-amal bi ta'atillah ala nur min Allah raja'an ou yani raja'a thawab Allah wa an tatruk ma'siyat Allah ala nur min Allah takhafu 'iqab Allah. C'est-à-dire que tu pratiques l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi que tu délaisses la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur une science d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si c'est pas ce qui est interdit, comment tu veux le délaisser? Et pourquoi? Parce que tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait apporté la parole d'Ibn Kathir, qu'il a rapporté cette définition dans Tafsir Ibn Kathir, dans Tafsir de Surat al-Baqara, si je me souviens bien. Et la Dahabi aussi, rahimallah, qui a cité cette définition-là. Et Ibn Qayyim, comme on a dit, qui a dit que c'était la meilleure définition et la plus complète. Maintenant, après avoir défini la taqwa, on est arrivé au sens de la taqwa. Et on avait expliqué ça. Il est arrivé au point où il dit... إذن التقوى عمل. On avait dit que c'est pas que des paroles. Taqwa c'est des actions. التقوى عمل وهذا العمل يقول عمل بطاعة الله على نور من الله. فما المراد بالنور هنا؟ المراد بالنور هنا العلم. أي أن هذا العمل الذي تقوم به مبني على العلم أو على علم. Donc la piété est une pratique des actions. Et il dit au sujet de cette pratique, pratiquer l'obéissance à Allah avec une lumière venant d'Allah. Quel est le sens de lumière ici? Et le cheikh dit que c'est science. Et Cheikh Abdelrazak Al-Abbal Balr, qui enseigne aussi au Mejid, qui enseigne au Mejid Nabawi, et qui est aussi un enseignant à l'université de Médine, qui est le fils du savant Cheikh Mahdi Al-Abbad, il dit la même chose sur le Nour. Il dit que c'est l'ilm. Hein? Il dit que Nour, c'est l'ilm. C'est-à-dire que ces actions que tu pratiques sont basées sur une science. Et puis il cite un verset, il dit Allah Jalla fi'ulahi yaqul Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allah nur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de rapporter une preuve que nur ça veut dire science, ilm. Qad ja'akum min Allah nur wa kitab mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul as-salam. ويخرج من الظلمات إلى النور يهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة فالنور هنا بالعلم يعني العمل قائم على علم ولهذا نص أهل العلم على أن العلم شرط في صحة العمل قال الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قوله القول والعمل ثم ذكر قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل c'est-à-dire ces actions que tu pratiques sont basées sur une science. Et ça, ça peut être quelque chose de connu chez certains de nos frères qui essaient de s'accrocher à la sunna, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une insouciance vis-à-vis de ça, et de faire attention à pratiquer ça dans toute action qu'on fait. Des fois, tu vois, un frère de la sunna, tu le vois, la manière dont il fait l'adhan, il ne sait pas faire l'adhan, tu le vois en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris comment faire l'adhan, par exemple. Ou bien il prie et tu vois qu'il est trop près de sa sutra par exemple. Il ne sait pas la distance qu'il faut entre le point de sujoud, quand tu es en sujoud, entre le point de entre ta tête et la sutra, ou quand tu es debout, la distance entre toi et la sutra. C'est dans la sunna ça, c'est expliqué. Comment tu te comportes quand quelqu'un veut passer devant toi? Comment tu te comportes quand c'est un enfant qui veut passer devant toi? Toutes ces choses. C'est-à-dire que y a toutes ces actions sont basées sur un ilm. Et des fois on peut faire des choses même, on se revendique de la sunna, etc. On peut essayer de pratiquer certains sunnans, mais parce qu'on va pas dans le détail, on va pas chercher à savoir plus et à savoir vraiment comment il faut faire avant de le faire. Ça vient avec le temps, ça, il faut apprendre. Eh bien, on peut tomber aussi, même si on connaît cette règle-là, dans le fait des fois de pas la mettre en application ou de pas aller au fond de cette règle-là. Et puis il cite un verset du Coran dont la traduction du sens est « Aux gens du livre, notre messager, Mohammed, vous êtes certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre. » Vous avez entendu le mot ici, « Nour ». Donc une lumière. Donc c'est la dalil que quoi que « Nour » veut dire ?« Lumière ». Science, évidemment, ça c'est. On savait que ça voulait dire « lumière », mais ça veut dire « science ». Une lumière et un livre explicite vous ont certes venu d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un droit chemin. Et c'est la traduction du sens de Surat Al-Ma'ida, versets 15 et 16. La lumière donc ici est la science, c'est-à-dire la pratique basée sur une science. Et c'est pour cela que les savants ont dit que la science est une condition de l'authenticité de l'action. C'est-à-dire pour que l'action soit authentique, voilà, et c'est les deux conditions que j'avais rapportées au début, sincérité et le mutaba'a. Mais ils ont dit que les ulama, que les savants ont dit que la science est une condition de l'authenticité d'une action. Parce que si tu ne sais pas, comment tu veux que ton action soit acceptée? Comment tu vas la faire? L'imam Bukhari, rahmallah, il a dit dans son authentique chapitre de la science avant la parole et l'action. Le titre de chapitre, il est clair. Dans l'ulama, quand vous étudiez les explications de Bukhari, ils disent que fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Parce que le Bukhari c'est quoi? C'est un livre de hadith. Mais il y a des titres des chapitres. Et vous voyez la compréhension, le fiqh, l'ilm de le Bukhari, il est dans ces titres. Parce que regardez le titre, comment il est clair. Chapitre la parole de la science avant la parole et l'action. Et puis il cite quoi? Les dalils. Chapitre de la science avant la parole et l'action, puis il cita la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Sache donc en vérité ». Donc le verset commence par quoi? Par un ordre de science, d'apprendre, sache. Donc en vérité, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Donc c'est-à-dire que l'action, elle vient après l'ilm. Surat Mohammed, verset 19. Il commença donc par la science avant la parole et l'action. C'est toujours la parole du même Bukhari, rahmallah, ici. Et donc, Cheikh Al-Bukhari continue en disant, l'action est donc basée sur la science, et prête attention ici à la science. Cheikh, il dit, il va attirer notre attention sur un point important. Idan, al-amal, mab'atuhu, au mabnun, al-ilm, ou al-ilm, intabihuna. Laisse ayyu ilm, innama hu al-ilm al-sahih, al-mabni al-al-wahyayn, al-ladi kharaja min fiyi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wal-ladi la yantiqu, an-il-hawa, in-hu illa wahyun yuha. عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، هذا هو العلم المنجي والذي ينير لك الطريق. لا نور إلا هذا النور ولا طريق إلا هذا الطريق. ثق بهذا. Ici, le Cheikh attire notre attention sur un point important. Il dit donc, l'action est basée sur une science. On l'a déjà dit. Mais il dit, prête attention ici à la science. Ce n'est pas n'importe quelle science. Et ça, on avait déjà vu dans le hadith qu'on a fait ici d'Umm Salama, radiallahu anha, wa ardaha, qu'on a dit quoi? Allahumma arzuqni ilman nafi'a. C'est pas tout ilm qui est nafi'a. On avait dit qu'il y avait déjà différents types de sciences. Et si écoutez ce qu'il dit le cheikh ici, ce n'est pas n'importe quelle science, mais c'est au contraire la science authentique, basée sur les deux révélations, qui sort de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Voilà donc la science, et c'est la science qui est salutaire et qui t'illumine la voie. Il n'y a de lumière que cette lumière, il n'y a de voie que cette voie, sois sûr de cela. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est, wa in tuti'uhu tahtadu. Pour les frères qui ont la langue arabe, qui comprennent l'arabe, on ne fût-ce qu'à l'oral, hein, eh bien, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, parmi les grands savants, retenez les noms des savants qu'on cite, on a dit Cheikh Abdallah al-Bukhari. Il est à Médine, il est vivant. C'est un des élèves de Cheikh Obel Jabiri, par exemple, hein, à titre d'exemple. C'est un des élèves de Cheikh Mohamed Aman, hein, et de Cheikh Hamel Ansari et d'autres. Là, je vous cite des montagnes de science, hein. Et Cheikh Rabi' à ce hajj-ci, le hajj qui vient de passer, il a dit Cheikh Obel donne imamun fi salafiyya. Hein, Cheikh Obel est un imam dans la salafiyya, c'est-à-dire le fait de suivre les plus prédécesseurs. Hein. Eh bien, on a dit quoi encore, Cheikh Abdelrazak al-Badr? On a cité son nom aussi. Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, un savant qui est à la Mecque, qui enseignait avant, à l'université de Médine, et qui vivait à Médine avant, qui maintenant est à la Mecque, hein, et qui est très connu pour une science qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil, la critique et l'éloge. C'est un spécialiste des hommes, en fait. Et c'est pour ça, hein, qu'il est connu pour sa défense de la sunna et de sa mise en garde contre les gens d'innovation et les innovations. C'est pour ça d'ailleurs que, évidemment, vous voyez que les gens d'innovation, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, vous pensez? Hein? Ben non, ils l'aiment pas. D'accord? Ils l'aiment pas parce que juste c'est Cheikh Rabi', ils l'aiment pas parce qu'il défend la sunna. Et Cheikh Rabi', il fait partie des grands ulama de cette époque-ci. Hein? Et Cheikh Mohamed Abdelwahab al-Banna, rahimahullah, hein, qui j'ai eu l'occasion de voir au moins une fois dans ma vie, alhamdoulilah, mais qui est mort à 100 ans ou plus, hein, et qui fait partie des chouyours de Cheikh Rabi', il a dit, hein, que c'est le porteur de l'étendard et le moujed dit le revivificateur de cette science au 14e siècle. C'est lui, Cheikh Rabi', c'est son cheikh qui dit ça. Cheikh Mohamed Abdelwahab al-Banna, il fait partie des grands savants de la communauté, rahmatullah alayh. Son frère est toujours vivant, il a plus de 90 ans, il nous a fait que quelques cours quand il est venu nous visiter, dans Tafsir al-Qur'an, hein, c'est Cheikh Hassan Al-Banna, pas Hassan al-Banna des Ikhwan Muslimin qui est mort, hein. Je parle de Hassan al-Banna qui est toujours vivant parmi les savants de la Sunna qui vit à l'heure actuelle au Caire. Hein. Essayez de retenir les noms. Soit j'ai dit tout à l'heure, faut revenir au ulama, mais si on connaît pas le nom, comment est-ce qu'on veut venir au ulama, hein? C'est vrai, hein. Cheikh al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, derrière les ulama, ils appellent ces trois-là le triangle d'or. Rahmatullah alayhim. Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Uthaymin. Et puis ces gens-là, ils avaient des élèves, ils ont des gens que eux ont recommandés, Cheikh al-Fawzan. Cheikh Ghoudayan, rahimahullah, il est mort, rahimahullah, il y a quelques années, il nous faisait des cours de Kitab Tawhid par téléphone, hein. Le Cheikh Fawzan, Cheikh Ghoudayan, il faisait, Cheikh Fawzan, toujours jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il fait partie de l'assemblée des grands savants d'Arabie Saoudite. Et Cheikh Ghoudayan en faisait partie aussi, hein. Cheikh Louhaydan, Cheikh Saleh Louhaydan, qui est toujours vivant, qui fait aussi partie de qui est à Riyad, et qui fait partie des grands savants, hein. Retenez les noms, retenez les noms. Vous avez un savant qui est aussi un spécialiste, hein, donc si dans le Jarh wa Ta'dil, quand je dis ça, ça veut dire qu'ils connaissent que ça, hein. Ça veut dire que c'est des ulama, mais, hein, ils sont une grande science dans ce domaine-là aussi, ils ont une spécialisation aussi. Ben, c'est Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali. D'ailleurs, qui a une place de mufti maintenant, au Masjid Nabawi. D'accord? Et il enseigne à l'université de Médine. Le Cheikh Najmi Rahmahullah, Cheikh Ahmed Ben Yahya Najmi Rahmahullah, qui était le mufti du sud de l'Arabie, parce qu'il est mort, Rahmatullah, il y a quelques années, hein, que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir au téléphone, Rahmatullah, allez, eh bien, il a dit, Cheikh Mohamed Ben Hadi, il fait partie des kibar, l'ulama. Il fait partie des grands savants. Pourquoi je vous dis tout ça? Mais vous voyez comment ça marche, c'est que, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ben Hadi, Rahmahullah, Ahluddikr, Alladina, Yissamouna, Ahluddikr, Al-Kumakar, Rahmahullah, c'est les gens du rappel qui nomment les gens du rappel et qui connaissent les gens du rappel. C'est pas toi qui vas dire qu'un alim, parce que toi t'as pas d'ilm déjà, comment tu vas savoir? Et puis, ilm sahih, un ilm authentique. Il y a un vers que les ulama disent de poésie qui disent, Ya'arifu, Dawil Fadli, Dawu. Les gens de la préséance, c'est eux qui connaissent les gens de préséance. Ou comme قالوا على كل حال الشيخ ربيع pourquoi j'ai rapporté tout ça pour vous dire que الشيخ ربيع il a fait cette l'explication de ce verset en deux cassettes, elles sont disponibles sur internet. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, ce verset du Coran il l'explique en deux cassettes, deux audios complets juste sur ce verset là du Coran. وَيَقُولُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَلَا نُورَ إِلَّا هَذَا النُّورُ وَلَا طَرِيقَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ. Donc le verset c'est et en vérité tu guides vers un droit, un chemin droit. Surat al-Shura, non pardon, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Surat al-Nur, verset 54. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Surat al-Shura, verset 52. Pas de lumière donc en dehors de cette lumière, et pas de voix en dehors de cette voix. Toi, akhi fillah, toi tu vas arriver quelque part. On est d'accord? Non, on parle pas, on parle juste dans la vie de tous les jours. Toi tu vas arriver quelque part. Tu vas prendre la route qui t'amène et qui est éclairée, ou là tu vas prendre la route qui est dans l'obscurité, tu sais pas où elle t'amène? Hmm? Quelle route? Celui qui dit la deuxième, année qu'il a consulté un psychiatre. Hein? C'est déjà dans Dounia, on réfléchit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Din? On prend pas n'importe quelle voie. On prend la voie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et qui est éclairée par la science authentique. Et si maintenant sur cette voie, il y a des trous, il y a des pièges, etc. Et quelqu'un te dit, attention, il n'y a pas de lumière, mais attention, là il y a un trou, là il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que ça va lui dire? Hein? Laisse-moi tranquille. Il va dire, Jazakallahu khairan. Alors pourquoi quand l'ulama, il met en garde sur quelqu'un, ou il te montre une innovation religieuse, il dit pas Jazakallahu khairan. Et tu acceptes leur nasiha. Parce que si tu tombes dans un trou, tu vas peut-être faire mal. Maintenant on parle de din. Donc, Cheikh dit, pas de lumière, donc, en dehors de cette lumière, et pas de voix en dehors de cette voix. La science, quelle science, le Cheikh dit? C'est la science authentique basée sur les deux révélations, et cette science est reprise en reprenant les gens de science, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Amr ibn al-As, rapporté dans les deux authentiques. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم يفتي انتبه بغير علم فضلوا أضلوا والعياذ بالله فالعلم المنجي هو العلم المبني على الوحيين. Écoutez ce hadith, encore une fois j'ai dit que toute la guidance elle se retrouve dans nos textes. Ce hadith d'Amr ibn al-As, il dit, qui est dans le Bukhari, quand on dit les deux authentiques c'est dans Bukhari ou Muslim. Et quand le hadith est dans Bukhari ou Muslim, hein, c'est un hadith muttafaq alayh, on dit. C'est un jargon chez les ulama, muttafaqun alayh. D'accord? Et bien, ça fait partie des hadiths les plus authentiques. Il dit, Allah ne prend pas la science, ou ne reprend pas la science en l'arrachant des cœurs des gens. Mais il reprend la science en faisant mourir les savants. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que la mort d'un savant, c'est une monsiba. Et je me rappelle quand on nous a annoncé la mort de Cheikh Najmi. Et je me rappelle quand on nous a annoncé la mort de Cheikh Al-Banna. Récemment, la mort de Cheikh Suwayl, l'imam de l'Haram al-Makki. Hein? Quand on nous a annoncé la mort, hein? D'autres savants. Yani, c'est comme si, hein, nos jambes, elles ont tremblé, subhanallah al-Azim. C'est une monsiba. Monsiba. Des grands savants comme ça qui partent. Rahmatullah alayhim. Et la mort de Cheikh Al-Rudayan. Et d'autres. Et je me rappelle que quand on a appris la mort de Cheikh Najmi, Cheikh Falah était avec nous, il a fait une khutbah sur la mort des ulama. Donc, on a dit, il reprend la science en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants. Les gens prendront donc à leur tête des ignorants qui seront questionnés et donneront des avis juridiques, des fatawa, sans science. Cheikh, il dit attention, regarde, écoute ce qu'il a dit le prophète, hein? Il donne des avis juridiques, sois attentif, c'est-à-dire qu'il donne un avis juridique, mais sans science. Ils s'égareront donc et égareront les gens. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Les ulama partent un par un. Alhamdoulilah, s'il y en a qui arrivent quand même, mais ils partent. Ils partent. Hein? Ils partent. Et Cheikh il dit, nous cherchons refuge en Allah contre cela. Cheikh il dit donc, la science qui est salutaire est donc la science basée sur les deux révélations. Puis il rapporte une parole de l'Qayyim rahimahullah. Il dit l'imam l'Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawaid. وهو اسم على مسمى قال أعلى الهمم في طلب العلم طلب العلم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد وعلم حدود المنزل إلى آخر كلامه رحمه الله أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة لأنك مأمور بذلك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء سورة الأعراف وكل عباد سيسألون عن أمرين اثنين الكل سيسأل ماذا كنتم تعبدون وما أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين فالأول منهما جوابه ماذا كنتم تعبدون وبتحقيق التوحيد والعبودية لله عز وجل جوابه تحقيق العبودية لله والثاني جوابه تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم et ça c'est un point mes frères et mes sœurs très important. Écoutez bien, je sais qu'il est un peu tard, hein. Je crois que je vais avoir une réputation de marathonien chez vous dans les cours, mais c'est toujours comme ça. Les sujets sont longs, on vient qu'une, hein, que certaines heures, donc on est obligé de tout terminer. Et je vous rappelle l'Athar que l'imam Muslim l'a rapporté dans son Sahih, hein, de Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, qui a dit que la science n'est pas acquise avec le repos du corps. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu veux le repos du corps ou tu veux la science? L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit dans son livre Al-Fawa'id, et c'est un livre qui porte bien son nom. Al-Fawa'id, les bénéfices. C'est un livre pour les frères qui ont la langue arabe. Lisez-le, c'est un délice de lire ce livre-là. La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la sunna et de comprendre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam de la compréhension correcte et la science des limites de la révélation, etc. La plus haute des motivations, c'est quoi il a dit dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la sunna, car cela t'est commandé. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. » Surat Al-A'raf, verset 3. C'est un dalil que Cheikh Maqbi, rahimahullah, est rapporté suivant sur l'obligation de l'ittiba, le suivi, et de suivre le dalil. Et tous les serviteurs seront questionnés sur deux choses. Tout le monde sera questionné. Écoutez ça. C'est-à-dire, toi mon frère, moi aussi, nous tous, même le Cheikh qui dit ça, nous serons tous questionnés sur deux choses. Tout le monde sera questionné, qu'adoriez-vous et comment avez-vous répondu aux envoyés? La réponse à la première question, c'est qu'adoriez-vous? C'est par la réalisation de l'unicité et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si toi tu ne sais pas c'est quoi l'unicité, et tu ne sais pas c'est quoi qui annule l'unicité, comment tu veux concrétiser ça? Les ulama, ils ont écrit des livres dans l'unicité, ils ont écrit Kitab al-Tawhid, par exemple, sur Muhammad, le livre de l'unicité, sur Muhammad ibn al-Wasabi. Comme Cheikh Rabi' l'a dit, le savant senior, le grand savant du Yémen, parmi les savants du Yémen, qui était un des élèves de Cheikh Muqbi rahimahullah, Cheikh Muhammad al-Wasabi, il a écrit un livre très connu qui s'appelle Al-Qawl al-Mufid fi Adilati al-Tawhid. Un livre que Cheikh Muqbi et les ulama, ils ont fait un grand éloge de ce livre parce qu'il a montré le Tawhid en détail. Et si je ne me trompe pas, il a été traduit. Hein? Il a été même publié en français. Ça, c'est des livres qu'il faut voir dans sa librairie. Et pas Tolstoy ou je sais pas quoi, etc. Hein? Là, je dis ça parce que dans l'avion, quelqu'un qui va déposer Tolstoy sur ma chaise. Hein? C'est pour ça que je me suis rappelé ce titre-là. L'ilm, kitab wa sunnah. À la kouli hal, le cheikh il dit... Et tous les serviteurs, donc comme j'ai dit, seront questionnés sur deux questions. La première, on a dit quoi? C'est qu'adoriez-vous? Ma'adha kuntum ta'budun? La réponse c'est par la réalisation de l'unicité, tawhid. et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse à la deuxième question, c'est quoi? Mada ajabtum al-mursalin? Qu'avez-vous répondu aux messagers? Au pluriel messager? La réalisation du suivi pur des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La réalisation du suivi pur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh il dit: وهذا الذي ذكرته قد نص عليه الإمام القيم رحمه الله في مواضع من كتبه كما في مقدمة زاد المعاد واجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها وهو حق أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم كتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المراد ليس المراد فهمك ولا فهمي ولا فهم زيد ولا عمرو من الناس أن تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعبد الله على بصيرة Est-ce que j'ai dit a été écrit par l'imam Ibn Qayyim dans plusieurs de ses livres. Comme dans l'introduction de Zad al-Ma'ad. Vous savez c'est quoi Zad al-Ma'ad? Zad al-Ma'ad, connaissez un truc, hein? Ouais, mais c'est sur quoi? C'est la sira du prophète. Mais hein, il y a beaucoup de sujets, etc. Mais Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad. Zad al-Ma'ad. Ibn Qayyim l'a rapporté, hein, je dis ça de mémoire, mais vous vérifierez, Inch'Allah, qu'il a écrit comment? Sur sa monture, pendant un voyage de mémoire. Zad al-Ma'ad. Et vous savez que Cheikh Al-Albani, il a fait ta'liqat dessus. Il l'a appelé ta'liqat al-jihad, mais ce livre, il est perdu. On l'a pas retrouvé. Il est perdu. Ta'liqat al-jihad. Cheikh Al-Albani, il en parle dans certains de ses livres. Et lui-même, il dit qu'il ne le retrouve plus, ce livre-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les ulama le retrouvent. Hein, et qu'il sorte au grand jour, parce que ça doit être un trésor, ça. Imaginez Zad al-Ma'ad avec le ta'liqat de Cheikh Al-Albani. Et dans Ijtima al-Juyus l'Islamiyya. Et d'autres, et c'est une vérité, le Cheikh il dit. La plus haute des motivations dans la quête de la science est la quête de la science du livre d'Allah et de la Sunna et de comprendre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam de la compréhension correcte. Il y a certains prêtres d'entre nous, masha'Allah, ils font des maîtrises, hein. 6 ans, ils font des doctorats, masha'Allah, dans le dunya, etc. Alhamdulillah, on dit pas, non, on fait rien, reste au chômage. C'est pas ça qu'on est en train de dire, hein. Walakin, regarde le juhd que tu mets, les efforts que tu mets là-dedans. Et où sont tes efforts par rapport à la science de l'islam? Et les deux sont facilement, pas facilement, mais sont conciliables. Tu peux, si tu es bien organisé, il n'y a pas beaucoup de temps de libre, etc. Hein, ça demande un effort, etc. C'est pas facile. Moi-même, moi je travaille avec mes obligations familiales, et je travaille, etc. Et je voyage, etc. Et je suis encore à l'université jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein, j'essaye, on essaye. Voilà, Kin, tu vas pas étudier à l'université. Évidemment, nous, on le fait avec la niya de quoi? Hein? D'avoir un diplôme pour pouvoir vivre dans les pays musulmans, pour pouvoir vivre à l'aise, etc. Hein? Donc, ils ne vont pas faire ça au détriment de ce qui est obligatoire pour toi de connaître. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Ce qui est voulu ici, Cheikh, il dit, ce n'est pas ta compréhension, ni la mienne, ni celle d'un tel ou d'un tel parmi les gens. Ce qui est voulu, c'est que tu comprennes d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de la compréhension voulue par Allah et de la compréhension voulue par son messager sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu adores Allah avec science, avec clairvoyance. Et Cheikh dit, وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْفَهْمْ مُوَافَقَةَ الصَّحْبِ الْكِرَامِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ الصَّالِحِ فَلَا تَخْرُجَ عَنْ أَفْهَمِهِمْ وَعَلَى أَقْوَالِهِمْ وَالْفَهْمْ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُرَادِ. Cheikh il dit, et ce qui t'indique cette compréhension correcte, c'est d'être en accord avec les nobles compagnons et les plus prédécesseurs de cette communauté. Ne sors donc pas de leur compréhension, ni de leurs paroles, et que tu comprennes d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam de la même compréhension que la leur. Et c'est ça que, peut-être c'est un mot qui est mal utilisé maintenant dans les médias, dans la, attention à mauvais escient, ils savent ce qu'ils font, hein. Et c'est vrai que toute personne qui s'en revendique n'en est pas nécessairement, on le sait. Comme je disais tout à l'heure, كل يدعو صلى الليلة وليلة لا تقر لهم بداك. Les gens vont dire, oh, moi aussi je suis sur la sunna, moi aussi je suis sur la salafia. C'est un mot que vous entendez beaucoup aujourd'hui, hein. Salafisme, les salafistes, ils aiment bien les mots istes en plus. Salafiste, hein. Hein, et puis ils te mettent à côté terroriste, extrémiste, violentiste, etc., hein. Voilà, Kin. Déjà, c'est une contradiction. Salafiste peut pas être terroriste. Hein, c'est pas possible ça. Tu peux pas mettre le feu, l'eau ensemble. C'est un tanakh, on dit ça. C'est une contradiction, ça. Quand tu veux suivre Salaf Saleh, parce que ça, Salafia, c'est quoi en fin de compte? Un mot qu'on entend. Mais ce que, on va chercher, hein, dans les journaux, j'ai failli citer quelques titres, mais on a fait dans les journaux, dans les médias, qu'eux nous attendent, ou d'un pseudo spécialiste en islam de l'université catholique de Louvain, Jean-Pierre, je sais pas quoi, qui nous explique c'est quoi la Salafia. Hein? Là, on apprend des ulama. Ils ont dit Salafia, c'est quoi? C'est le manhaj de vérité. C'est de suivre les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Comme on dit tout à l'heure. Quran, sunna, sahaba. Prophète Azam, il a dit à Fatima, ni'ma salafu ana, laki. Quel bon prédécesseur je suis pour toi. Il a utilisé le mot salaf. Donc le mot salafi, le ya à la fin, c'est comme quand tu dis quoi? Hein? Ana maghribi, ana belgiki, ana turki. C'est-à-dire que tu t'affilies à un pays. Eh bien là, tu t'affilies à qui? Au salaf. Et où est le problème de t'affilier au salaf? Allah t'a obligé de suivre le salaf dans le Coran et la sunna t'a obligé de suivre le salaf. Donc toi en un mot comme le Cheikh Al-Albani, pourquoi tu te fatigues? Tu dis je suis le Coran, la sunna, c'est la compréhension de... Dis salafi, khlas. Rtah. Un mot. Mais si t'as un problème avec ce mot-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ça t'a trouvé ce qu'il y a, mais il y a quelque chose. Et je vous rapporte qu'Ibn Taymiyyah, je dis de mémoire, mais vérifiez Inch'Allah, vous, dans son Majmou' al-Fatawa. Hein? T'as vérifié?
Ouais, c'est toi qui me l'as rapporté.
Moi, je me rappelle 4, maintenant, tu m'as mis un doute là. 4, page 179. Moi, je dis 4. Hein? Volume 4, page 179, il a rapporté l'ijma'. Le consensus unanimité sur le fait d'accepter cette affiliation-là au salaf et d'accepter cette appellation-là. Et il a dit, وَلَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَدَبْ السَّلَفْ وَعَتَزَ إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rapporte un ijma'a, خلاص. Lève ta main. Comme Cheikh Falah, quand on faisait du fiqh avec lui, il a dit, il a rapporté une misla khilafia, il a dit, voilà, c'est le tahqiq de Ibn Taymiyyah. Et il a dit, si Ibn Taymiyyah a fait un tahqiq, fa'auda alayhi bin nawajis. Yani, accroche-toi, yani, Ibn Taymiyyah muhaqqiq. Hein, rahmatullah alayh, Cheikh l'Islam, c'est pour ça qu'on appelle Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Il faudrait, Inch'Allah, qu'on fasse des fois des biographies des imams de la communauté, en commençant d'abord par la sirah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, et en montant, etc. Et parmi les grands, les illustres savants, l'imam Ahmed, rahimahullah. Et comment l'imam Ahmed, il a souffert. Comment il a été torturé. À l'époque où la secte de Jahmiya, hein, avait la force. Et qu'ils avaient influencé les gouverneurs de l'époque, etc. Et qu'ils disaient, la bid'a, que le Coran est quoi? Écrit et makhlouq. Je peux vous poser la question, c'est quoi la croyance correcte vis-à-vis du Coran? Notre Coran, c'est quoi? Hein, c'est? Ouais, tu demandes à un enfant, il va te dire c'est quoi le Coran? Il y a un enfant ici. C'est quoi le Coran? T'es en train de manger un bonbon, toi. Hein? Mais allez, je te ramène ton bonbon. Hein? Et ouais, les frères. Hein, le Coran, c'est? Kalamullah. Ghayru makhlouq. Le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et il y a eu des débats entre l'imam Ahmed et certains des Mubtadi à l'époque, etc. Oui, j'ai failli rapporter. Mais si on va rentrer, on va partir loin. Si je commence à parler de l'imam Ahmed. Hein? L'imam Ahmed. Imam al-Sunna, les gens, ils disent. Je me rappelle quand j'ai visité Cheikh Falah. Cheikh Falah, il a eu une opération. Et il a eu, je vous ai raconté ça, non? Il a eu une cheville complète remplacée, une prothèse, il a eu. Hein? Il était visité juste quand il sortait de la salle d'opération et qu'il était encore sous l'effet de l'anesthésie, etc. Puis on se demandait si on lui parlait, etc. Puis il a commencé à se réveiller, etc. Et moi je lui parlais de l'imam Ahmed. Cheikh, il s'est assis, il s'est levé, il a commencé. Hein? Khlas! Hein? Imam Ahmed! Comme nous a rapporté Cheikh Falah, il rapporte souvent ces histoires parce que quand il est malade ou quoi, un jour il est venu au cours, il était malade, je lui ai raconté une histoire. Il a dit qu'un de ses chouyours, il était malade, et puis il y a quelqu'un qui a cité Sophia devant lui. Il s'est levé, le cheikh, il a dit, elle a un choufit. Maintenant, je suis guéri, il a commencé à parler, à défendre le haq, etc. Hein? Et le cheikh nous a rapporté ça pour dire que quoi que, hein? Que même si, je suis malade, je suis venu pour donner cours, etc., parce que c'est ça, Annie, c'est, hein? C'est là-dedans qu'il est le remède pour nous. Et l'homme a rapporté qu'un de ses chouyours, parmi les chouyours mauritaniens avec qui il a fait le tefsir, un jour, il est arrivé entre deux frères. Il était malade, il est arrivé entre deux frères pour donner cours. Cheikh, il a dit, cheikh, tu es malade. Cheikh, tu es malade. Pourquoi tu nous as pas dit, hein? Regardez l'ilm. L'ilm. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux, Cheikh Falah, avec son pied sur une chaise comme ça, alors qu'il vient de faire changer toute une cheville, des fois jusqu'à 1h du matin, dans les cours, pendant 4-5 heures non-stop. Il s'arrête que pour les prières, la question-réponse, etc. C'est comme ça que l'on doit être. On doit être comme ça dans l'apprentissage de la science et dans la propagation de la science. À la kulli hal. Donc salafia, c'est quoi? C'est pas ce que nous disent les médias. Hein? C'est quoi? C'est le fait de s'affilier au plus prédécesseur. Ni'ma salaf. Si l'un n'est pas d'accord, je dis à qui tu t'affilies toi? À qui tu t'affilies? Est-ce que tu es mieux que Sahaba? Ce à quoi tu t'affilies, c'est mieux que Sahaba? Non, moi je suis fier de m'affilier au Sahaba. Je suis fier de m'affilier aux premières générations de l'islam au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils étaient les meilleurs des gens. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Il a dit le prophète, les meilleurs des gens sont ma génération puis ceux qui les suivent. Mais toi tu vas dire non, c'est pas les meilleurs. C'est qui s'est mis? C'est toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu dis je suis salaf salih, je suis dans salaf salih dans toute ma religion, je suis salaf salih dans leur compréhension de la religion. Mais comme j'ai dit, c'est pas toute personne maintenant qui, parce qu'il y a des gens, ils savent bien que c'est la vérité. Ils essaient de s'en affilier, de s'en revendiquer, etc., alors qu'ils n'en font pas partie. Hein? Alors que maintenant on parle des groupes Sharia for Belgium, on avait dit, les salafistes de Sharia for Belgium. Contradiction. C'est la vie de Sharia for Belgium. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein? Salafistes, et en même temps ils suivent pas salaf. Comment ça se fait ça? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est voulu ça? C'est pour donner une mauvaise quoi? Hein? Non, c'est voulu, faut pas être naïf. Surtout que beaucoup de gens, wallillah ilhan, beaucoup de gens commencent à comprendre. Et je vous annonce la bonne nouvelle, c'est ce qu'ils disent nos machaires, c'est ce qu'on voit nous sur le terrain. Quand vous voyez par exemple dans des pays comme la France ou ailleurs, etc., où la pression sur les musulmans elle est très 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 forte. Hein? Eh bien, les nombres de conversions, elles ne font qu'augmenter. Je crois qu'il y a une semaine, on a eu une conférence à Birmingham, il y avait un frère converti qui est ingénieur, tous ses frères et sœurs, ils sont sur la sunna, alhamdoulilah, ils sont tous convertis, hein, et il a amené ses parents avec lui. Et il m'a demandé de parler à son père. C'est un juif, son père, à la base, mais c'est un athée maintenant. Hein. Et je lui parlais, etc., et il disait qu'il lisait les trois fondements, par exemple. Il n'est pas musulman, hein. Il lisait les Usul Talata. Et il disait qu'il a dit que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui l'interpellent en islam, etc. Mais il a dit, je vois pas encore c'est la vérité, mais si je vois que la vérité, je me convertirai. Il a dit comme ça. Hein? Et lui, il a dit que lui, son épouse, il se posait des questions sur comment ils allaient faire si l'un d'entre eux se convertissait, etc. Lui, il n'est pas encore dans le cadre de, quand on le guide, hein, vers l'islam et lui ouvre la poitrine à l'islam. On voit beaucoup de cas, même certains ennemis de l'islam qui sont convertis à l'islam. Vous connaissez même certains cas de certains qui faisaient partie des groupes néo-nazis et qui ont tellement détesté l'islam qu'ils se sont rapprochés tellement de l'islam parce qu'ils combattaient l'islam qu'un jour ils ont connu l'islam et ils se sont convertis à l'islam. Et vous savez, pour les frères qui me connaissent, ils savent de qui je veux parler. Et c'est quelqu'un qui est devenu un grand da'i de la sunna. Et il est mort, rahmahullah. Beaucoup de traductions qui ont été faites, hein, elles ont été faites par ce frère-là. Alors que lui, que j'ai dit quoi, c'était quoi? Ce homme était contre l'islam à la base. Et comme il avait tout le temps affaire à l'islam, etc., à un moment, il a compris c'était quoi l'islam. Et il s'est converti à l'islam. Donc toi, des fois, c'est vrai que, hein, et je sais qu'on sort un peu du contexte, mais en vérité, c'est important de parler de ça aussi. Si vous êtes ici en Belgique ou en France ou ailleurs, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, etc., il y a la pression, elle est forte, c'est vrai. Il faut sabr, ya ikhwa. Sabr, ya akhawat. Imaginez-vous la pression qu'il y a sur les sœurs par rapport au hijab. Nous, on est des hommes, alhamdoulilah, hein. Imaginez les sœurs. Il y a certains des sœurs qui nous envoient des fois des emails, etc., via le site, etc., kadakala. Des sœurs qui sont toutes seules dans un endroit, elles, parce qu'elles essaient de s'accrocher à la sunna, etc. Hein? Elle dit, ouais, je sais comment faire pour vos cours, etc., hein? Toutes seules. Moi, j'étais faire une conférence dans un village, en France, pas loin de Montal, il y avait 4 frères, 3 convertis à Marocains. Alhamdoulilah, ils ont mis sur la sunna. L'islam, il avance, Allah, alhamd. C'est nous aussi, comment est-ce qu'on montre l'islam? Comment est-ce qu'on porte? Et retourner à la Syrie encore une fois. Comment le prophète a souffert? Qui on est nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et comme Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, tu ne peux pas essayer de faire partie des, ou de faire partie des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir ta part de l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi des préjudices, il a subi des torts. Plus que toi ou moi. Tu dois avoir ta part aussi. Si tu suis cette voie-là. Rakin sabr, et l'ilm, et le taqwa, et expliquer aux gens, et faire da'wa, et patienter. Et quand même les gens quand te font du mal, ben tu ne remets pas le mal. Tu te comportes bien. Etc. À tel point que même ton ennemi va se rendre compte qu'un jour il a dit, mais cette personne, c'est agib, j'arrête pas de lui faire du mal, hein. Et il ne montre que le bien. Et le comportement, c'est un bab très important dans da'wa. Parce que les gens, ils voient. Ils voient l'application de l'islam. Donc, il faut patienter, il faut faire da'wa, hein, et il faut continuer. Parce que des fois, on voit des réactions un peu sur Internet, des fois, des réactions un peu exagérées, certaines personnes, hein, les frères, il y a des difficultés, même certaines notions qui sont attaquées physiquement. Et moi, personnellement, j'ai déjà été attaqué avec ma famille par 2 hommes, physiquement. Voilà, je vous le dis. J'aime pas dire ça dans les cours, etc., mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Hein? Physiquement. Ma femme, elle est enceinte. Ça arrive. Bilashak. Walakin sabr. 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 Regardez Sahaba. Regardez Bilal, radiallahu anhu, arda.
Physiquement, tu te défends.
Yani, hein, on va laisser ça pour après, Inch'Allah. Hein? Le tafsil sera pour après, Inch'Allah. Mais, yani, ce que je dis, c'est qu'il faut être, patient. Il faut continuer à faire da'wa. Il faut pas arrêter de pratiquer. Au contraire, des fois, c'est vrai, la pression est tellement forte que certains frères, qu'est-ce qu'ils peuvent sentir, quoi? Une faiblesse, et commence à faire des concessions. Ah, c'est dur de porter la barbe, c'est dur de porter la sunna, c'est dur de porter le hijab, c'est dur de kada kada. Patiente. Wala aqibatu lil muttaqin. Hein? Nous, justement, on a cette aqida qui nous porte. On croit le jannah, on croit le firdaus a'la, on croit que les mu'minin, ils vont voir leur seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Yom al-qiyama. Et que c'est la meilleure des récompenses. Tu crois à tout ça. C'est pour ça que je dis toujours dans mes cours, il faut apprendre sur le Jannah, hein, pour t'inciter à essayer d'y aller, à faire tout ce qu'il faut pour y aller. Et aussi, il faut apprendre sur le Nar, et l'adab Nar, etc., ou l'adab Billah. Pourquoi? Pour t'inciter à tomber dans ce quoi, hein, peut t'amener à cela. Mais il faut sabre. Un sabre. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ils ont dit بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ. بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينَ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ. C'est avec la patience et la certitude. Ne doute pas. Ne doute pas. Et bien, ikhwa, je vais faire un appel. Étudiez le Coran, étudiez le tafsir du Coran. Le Coran, c'est important. Regardez par exemple sur notre Ghafir. Qui connaît sur notre Ghafir? Hamim. Tanzil al-kitab min Allah al-aziz al-alim. Ghafir al-zambi wa qabil al-tawbi shadid al-iqabi al-tawl. La ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Ma yujadilu fi ayati Allah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fi al-bilad. Kuffar. Même si tu vois les commerces qu'ils ont, et tu vois, hein, tout ce qu'ils ont dans la dunya, etc. Ne sois pas dupe par cela, ne sois pas trompé par cela. Fala yaghruka taqallubuhum fil bilad. Kadhabat qablahum. Qui? Eh ouais, goul, hein? Hein? Personne? Hein? Le verset c'est quoi? Eh ouais. Hein? Ouais, tu connais? Vas-y. Ça c'est pas sur notre affaire ça. Hein? C'est juste ce que tu dis, mais c'est pas sur notre affaire. Hein? Tu connais pas sur notre affaire? Non? Alhamdulillah. Hein? Tu dis le Coran. Tu dis le tafsir Coran. Et les ulama, ils ont fait des cours entiers sur comment apprendre le Coran, comment comprendre le Coran. Et il y a un tafsir qui était facilité, mais c'est encore une fois en langue arabe. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop en langue française, c'est des tafsirs facilités. Parce que tafsir Ibn Kathir, je crois qu'il est traduit complètement. Mais tafsir Ibn Kathir, c'est pas le premier niveau dans le tafsir. Les ulama, ils conseillent par exemple tafsir al-Muyassar. Cheikh Azzin, Ramadan, il d'Algérie, il a fait un dar sur tafsir, il conseille tafsir al-Muyassar. Et la deuxième édition, celle qui est faite, sous le nouveau ministre des Affaires religieuses, hein, parce qu'il y avait celui avant, c'est la première édition, puis il y a parce qu'ils ont corrigé certaines choses, etc. Cheikh Saleh Ali Cheikh. Tafsir Mouyasser, c'est un tafsir facilité. Hein? C'est-à-dire qu'il te donne le verset, le sens. Verset, le sens, c'est très facile à comprendre. Donc, ne sois pas dû par les kofars, est-ce qu'ils ont comme, hein, qu'ils peuvent avoir comme puissance, qu'ils peuvent avoir comme bien, qu'ils peuvent avoir comme position, etc., kada, kada, hein. Patiente. Et un peu plus loin, wa hamat kullu matin bi rasulihim liya'khudhu. Yani toutes les communautés qui ont refusé l'appel et qui ont dénié l'appel des messagers, ils ont voulu les tuer. Et ils ont essayé de les torturer, ils en ont tué, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. وجادلوا بالباطل الحق ليضحضوا ولا يجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Un exemple aussi, ils sont comportés de telle manière, regarde l'iqab d'Allah Azul qui leur a donné le châtiment. Fa kayfa kana iqab. Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar. Alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Allahu akbar, les anges qui portent l'arche. Et croient en Allah de la vraie croyance, comme il expliquait dans le tafsir. Hein? Et ils font les louanges d'Allah Azzawajal comme ils le méritent, subhanahu wa ta'ala. Et ils demandent pardon pour qui? Wa yastaghfiruna lilladina amanu. Rabbana, wasi'ta kulla shay'in rahmata wa ilma, faghfir lilladina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim azab al jahim. Rabbana wa adkhilum jannati adinin, alati wa'attahum. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Les anges, et comme les ulama, comme Tafsir Saadi l'a expliqué, parmi les plus importants des anges qui portent le trône, l'arche, c'est quoi? Ils font l'istighfar pour les mu'minin, les croyants. Vivez avec le Tafsir, ya ikhwa. Vivez avec le Coran. Apprenez le Coran, mémorisez le Coran, apprenez le tafsir du Coran. Et ton cœur va s'apaiser et tu sauras comment te comporter dans les situations, etc. Et aussi la sunna, bien sûr. Et j'ai hésité parce que dans cette conférence-ci, j'avais pensé à faire du tafsir Coran. Peut-être une prochaine fois, notamment, peut-être qu'on a parlé sur Sourate Ghafir, on peut peut-être faire sur Sourate Ghafir, Inch'Allah. Cheikh Al-Uthaymin, il a fait 18 cassettes sur Sourate Ghafir. 18. C'est sur son site. Et comme Cheikh Azir Ramadan, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, c'est le deuxième niveau d'antisir. Hein? D'accord? Allez, je vous rapporte une parole de Salaf sur le tafsir. Masrouq, rahimahullah, il a voyagé jusqu'au Sham, jusqu'à Al-Basra. Pour un verset du Coran, pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Et la personne qui cherchait, elle était partie au Sham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repréparé, il est parti au Sham, je suis pour un verset du Coran. Il n'y a pas d'avion à l'époque, il n'y a pas de voiture. Pour un verset du Coran. Hein? Mujahid, il a dit, l'élève de Abd ibn Abbas, l'exégète du Coran, hein, parmi les Sahaba, il a dit quoi? Il a dit, Ahabbu an-nasi ila Allah. أعلمهم بما أنزل. Les meilleurs des gens, les plus aimés des gens par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus savants de ce qu'il a révélé. Tafsir le Coran. Et le mot tafsir déjà, tafsir c'est al-wazn fa'il, al-wazn taf'il, et ça vient de l'fasr. Tu dis fasr al-rajul al-qisra ta'ni tamara. Hein? C'est-à-dire que le fait de dévoiler, comme quelqu'un qui enlève la peau d'une date pour voir ce qu'il y a dedans. Donc tafsir en fait c'est un dévoilement du sens, un bayan du sens. On revient au dars. J'espère que vous avez le temps, vous avez prévenu vos familles, vous n'allez pas rentrer tôt, inshallah, hein? Sauf si elles sont ici, hein? Demain, je suis à Mosquée Al-Aziz, à Moulimbek, à Mourab Al-Aisha, inshallah. Demain, je vous conseille vivement ce cours. Si vous savez venir après le Mourab et après l'Aisha, c'est un cours que Cheikh Baramzan Al-Hajiri nous a fait, parmi les élèves de Cheikh Ibn Baz et d'autres, hein? Et je l'ai mis sous un titre comme lui nous a fait. Je vais vous la faire comme il nous l'a fait. Il nous a dit une affaire importante. Il nous a laissé comme ça. Le mesjid était rempli. Pourquoi? Tout le monde voulait savoir c'était quoi, hein?
C'est pas après l'Asr?
Après l'Asr? Update. Hein? Comme Windows, update. Hein? C'est après l'Asr et après? Al-Mughrib Majid Al-Aziz. C'est quelle rue? Rue de l'Esco, 1080 Moulimbeek. 54. Ouais, à mon avis, il ne doit pas y avoir 36 mosquées dans la rue, donc, hein. Majid Al-Aziz. Venez, c'est une affaire importante. Et ce sera peut-être en deux cours, Inch'Allah. Hein. Vous allez voir, c'est un cours très intéressant, Inch'Allah. Donc, Cheikh dit, ce qu'il voulut, ce n'est pas ta compréhension, ni la mienne, ni celle d'un tel ou d'un tel parmi les gens. Ce qu'il voulut, ce que tu comprennes d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la compréhension voulue par Allah et de la compréhension voulue par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Afin que tu adores Allah avec science. Et ce qui t'indique avec cette compréhension correcte, c'est d'être en accord avec les nobles compagnons et les plus prédécesseurs de cette communauté. Ne sors donc pas de leur compréhension ni de leurs paroles, et que tu comprennes d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la même compréhension que la leur. Puis il dit, et la science des limites de la révélation. Cheikh, il dit, y a-t-il des choses qui ont des limites? Pourquoi? Car Allah dit, c'est dans la traduction du sens, hein. On va apporter d'abord le verset en arabe, il dit, tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas. Voilà les lois d'Allah, ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. Hein, les ulama, ils ont appelé une règle qui est quoi? C'est sad al-dhara'i. C'est-à-dire que Sharia est venue pour t'interdire, elle a t'interdit quelque chose. Eh bien, elle t'a interdit aussi quoi? Ce qui amène à cette chose-là. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il a dit, il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit quoi? La taqrabu zina, n'approchez pas de la fornication. Hmm? Ne te retrouves pas tout seul avec une femme dans une pièce. Pour que troisième, c'est shaitan. Comme l'a dit Cheikh Mokbel, c'est celui qui se mélange aux femmes et qui il croit qu'il va être meftoun, il est majnoun. Et il a dit d'autres paroles qu'on ne va pas dire dans ce genre d'assises ici. On les laissera entre hommes après, Inch'Allah. Hmm? Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Et la connaissance des limites de la révélation. Où tu t'arrêtes, Cheikh il dit. T'es-il autorisé de parler ou n'était-il pas autorisé de parler? Faut savoir. Et vous voyez, mes bien-aimés, vous allez voir ce que ça veut dire en arabe. Avec un dhal, pas un dal. Kathir minhum yahdi bima la yadri. ويوقع الناس في الفتن والمحن والشحناء والبغضاء والاقتتال الى غير ذلك اليس ذلك كذلك يا اخوتاه انظروا انتم ترون لا يحتاج الواقع خير شاهد اذا التقوى عمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله شيخ الدي et vous voyez mes bien-aimés et vous entendez comme nombreux sont ceux qui donnent des avis juridiques religieux et parlent et dupent les gens sur certaines chaînes satellitaires ou certains écrits sur internet ou autre. Aucun de cela ne connaît les limites de la révélation. Et pour pas que je laisse une choubha dans la tête du frère, parce qu'il a parlé du fait de se défendre tout à l'heure, hein, Parce que c'est vrai que j'oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, et sur Internet, des fois, on n'a pas le visage, etc. Hein, on ne comprend pas les choses. Il y a un chapitre dans Usul Sunnah l'imam Ahmed. Regardez, Usul Sunnah. Hein, sur comment, c'est quoi la position du muslim qui se fait attaquer, comment il doit se défendre. Et parce qu'il a dit que tu peux tomber de la victime, celui qui est victime, à celui qui est un agresseur. Et les ulamas, ils ont donné des règles par rapport à la défense, etc. Ils ont donné tellement de règles, parce que si tu maîtrises ton ennemi, tu le mets au sol, tu ne peux pas l'achever. Et tu ne peux pas aller plus loin que cela. Fiqh, l'islam, c'est tout, ya ikhwa. Hein? D'accord? Et que ça doit être proportionnel à l'attaque, etc. C'est juste pour repousser, etc., etc. Sur Rabbi al-Jabiri, il a bien expliqué ça dans son expression de Usul Sunnah, sur Rabbi aussi, etc. Hein? L'islam, c'est tout, c'est complet. Cheikh, il dit, beaucoup d'entre eux radotent et parlent de ce qu'ils ne connaissent pas et font tomber les gens dans des troubles et des calamités et la haine et l'inimitié et dans le fait de combattre les uns contre les autres. D'ailleurs, vous voyez que certaines personnes que les ulama ont réfutées il y a des années, ils ont dit attention, hada sa mubtadi'a, il y a très longtemps, comme par exemple quelqu'un qui s'appelle Abul Hassan al-Ma'ribi, ou bien des gens comme Adnan Ar'our, ou bien des gens comme al-Maghraoui et d'autres personnes. Peut-être que certains d'entre vous connaissent pas ce genre de nom-là, walakin, Les ulama, ils ont dit, ces gens-là, ce sont des, quoi? Mubtadi'a. Vous voyez que dans les fitnas qu'il y a eu récemment avec les rébellions et les révolutions, etc., eux, ils étaient très actifs là-dedans. C'est les ulama, ils voient la fitna de loin. Ils savent quand ils parlent sur quelqu'un. Il dit, cher, regardez, vous verrez, vous n'avez pas besoin de plus qu'à la réalité et le meilleur témoin. Voilà, ça illustre ce que je viens de dire. Et on peut citer Mohamed Hassan d'Égypte et d'autres, etc. Quand tu vois dans les manifestations en Égypte, etc., El Maghraoui qui dit que la révolution au Maroc, etc. La tentative qu'il y a eu, c'est une révolution bénie. Parce que pourquoi les ulama dans les livres de la Sunna, ils ont mis ce qu'on appelle des points distinctifs. Les gens de la Sunna, ils ont des caractéristiques distinctives. Ils ont des osoul à laquelle ils se tiennent, ils ont des points. Un sunni, il se comporte de telle manière avec le gouverneur. Le sunni, il croit ça par rapport au livre d'Allah. Yak. Le sunni, il croit ça par rapport à tel point, etc. Et vous avez, donc, ici des caractéristiques de qui? Le bid'i, qui fait face au sunni. Ou bien le hizbi, qui fait face au salafi, d'accord? Vous avez quoi que des caractéristiques? Vous avez qui, en fait, ils contredisent au point des gens de la sunna, ou même ne fût-ce qu'un des points des gens de la sunna. Car quiconque contredit l'un des fondements des gens de la sunna, eh bien c'est quoi? C'est pas considéré comme quelqu'un des gens de la sunna. Khalas. Donc il va dire, non, tawhid, na'am, faut mettre en garde sur le shirk, na'am, l'asma wa sifat, na'am, les règles d'Ahl Sunnah, l'asma wa sifat, les noms attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, na'am, lakina, le khourouj, là on voit quelque chose d'autre déjà. Comment se comporter avec le gouverneur? Là, c'est pas le maqif d'Ahl Sunnah. Et les ulama, ils font pas la différence entre l'aqidah et le manhaj. Certains, ils disent, non, mais, il a un manhaj, lakina, une bonne aqidah. Les ulama, ils ont dit, là, tu peux pas avoir une bonne aqidah en ayant un mauvais manhaj. Et vice versa, parce que les deux sont liés. Cheikh Fawzan, il a dit ça, Cheikh Al-Albani, il a montré ça. Revenez au Usul Sunnah de l'imam Ahmed, expliqué par Hassan al-Iraqi avec l'introduction de Cheikh Abou al-Jabiri. Il a rapporté toutes les paroles des savants là-dessus. On a dit quoi donc? Donc la piété, c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah avec une science venant d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Il dit, Cheikh, qu'est-ce qui te pousse à cette pratique afin d'être le sujet d'éloge? Il dit, par un tel fait partie des pieux, et la preuve en est qu'il nourrit les gens et héberge l'invité, et ceci et cela, vertueux, qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup la nuit. Cela, tu ne le fais pas pour les gens. Le fais-tu pour que les gens fassent son éloge, le cheikh, il dit? Alors il sera dit cela, et la récompense sera perdue. Il y a des hadiths qui prouvent ça. Nous cherchons refuge en Allah contre cela. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas pour que les gens fassent son éloge. Et ce qui sera obtenu, ce sont des péchés, si tu le fais, parce que tu cherches l'éloge d'autrui. Ce qui te pousse donc vraiment, c'est que tu ne cherches. C'est que tu ne cherches avec cette pratique et avec ces actes d'adoration que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne cherches qu'à te rapprocher de lui parce qu'il aime comme action vertueuse, pas pour qu'on fasse son éloge. Mais de plus, si les gens font l'éloge de la personne en conséquence de ce qu'elle a fait comme action, et qu'on parle d'elle en bien, et que c'est une personne bienfaisante, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Que les gens fassent son éloge ou la blâme. Celui-là lui est égal, il ne se soucie de rien. Toi, tu ne te soucies pas de ce que disent les gens. C'est comme il y a des gens qui vont te critiquer, des gens vont faire ton éloge aussi. Toi, ça te fait ni chaud ni froid. Toi, tu le fais pour Allah et tu continues, khlas. Le nombre et l'éloge n'ont jamais été la mesure de la vérité. Ça, il faut écrire en lettres d'or, hein, avec de l'encre d'or. C'est quoi? Le nombre et l'éloge n'ont jamais été la mesure de la vérité. Ne crois pas parce que quelqu'un il a sur Twitter 2 millions de suiveurs. Il y a des gens, hein, Mohamed Arifi de l'Arabie Saoudite, il a plus de 2 millions de suiveurs sur Twitter. Peut-être il arrive à 2000 et des... Hein? Subhanallah. Un imam de la communauté, il a 2000 suiveurs. Et un bid'i, donc les ulama les ont mis en garde, hein? Il a 2 millions de suiveurs sur Twitter. Est-ce que parce que le hadith a 2 millions, je vais aller le suivre? Là. Hein? Là. Et il donne une preuve dans la traduction du sens 1. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. C'est pour ça, Shahabi dans ses cours rapporte toujours une parole de l'Fadl ibn Iyad, il dit « Alayka bi turiqil huda walaw qilla as-salikun wa iyyaka wa turiqid dalal walaw kathura al-halikun » Suis les voies de la guidance et si même le nombre de gens qui l'empruntent est petit et prends garde aux voies de l'égarement et si même ce même si sont nombreux les gens qui empruntent les chemins de l'égarement. Prends garde à l'égarement. Il est au chemin de l'égarement. Il ne regarde pas. Même si tu es tout seul sur Tariq. Même si c'était quoi? Tout seul sur Tariq. Même si tu vas doucement sur là. Le principal, c'est que tu meurs sur cette Tariq-là. Même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul dans ton coin. Qu'on a dit certaines sœurs dans un village perdu, je ne sais pas où, ou certains de nos frères, etc. Ils sont tout seuls. Qu'alhamdulillah. Elle est sur le haq. C'est ça qui est important. Et encore un autre dalil. Le premier c'est surat Al-An'am verset 116. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Surat Yusuf verset 103. Mais si cela vient après en conséquence, alors c'est la bonne nouvelle pour le croyant d'ici bas. Hein? Pourquoi? L'imam Ahmed, on fait son éloge, on a fait son éloge ou pas? L'imam Malik, on dit du bien de ces gens-là. Hein? Et bien écoutez ce qu'il dit, il a dit, si ça vient après en conséquence, alors c'est la bonne nouvelle pour le croyant d'ici bas. Donc, ce qui doit te pousser à cette pratique, c'est la sincérité. Regarde sa parole qu'Allah lui fasse miséricorde. La piété dans sa première moitié est la pratique basée sur la science en étant sincère pour Allah, n'est-ce pas? Et si tu pratiques une action, tu le fais selon tes passions ou en suivant le meilleur des hommes, alayhi salatu salam. C'est une question qu'on peut vous poser. Mais parce que tu suis le meilleur des hommes, alayhi salatu salam. Cette définition t'a donc regroupé dans sa première moitié les deux piliers de l'adoration. La sincérité et le suivi du messager d'Allah. Vous comprenez pourquoi maintenant les ulama ont dit cette définition, elle est quoi? Elle est la meilleure et celle qui la plus, hein, plus complète, la plus générique. Puis il dit qu'Allah lui fasse miséricorde et la piété c'est de délaisser la désobéissance à Allah. C'est-à-dire que maintenant on a fini sur l'obéissance à Allah. Et d'ailleurs, qui peut me citer en français? Ne fût-ce qu'en français, la définition, jusqu'à maintenant, que ça me permet de boire en attendant. Hein? Qui peut citer? Faut pas avoir peur de... Il y a deux personnes qui apprennent pas comme c'est rapporté dans Kitab al-Imam Sahih al-Bukhari. C'est celui qui a de l'ostentation, ou de la fierté, le kibr, et celui qui est timide. La pudeur, c'est bien. Lakin, ça c'est l'ilm. Cheikh Muqbir, rahmallah, il disait, عندي السؤال من صاحبه يقول أنا. J'ai une question. Ou des fois, il disait, choisis une matière. Le hadith, l'aqidah, le nahw, etc. Et tu réponds. Ou bien des fois, il citait des noms. 2-3 000 personnes, il y a, quoi, hein? Et il disait qom. Et s'il disait une erreur, il disait assieds-toi. Hein? Naam.
La connaissance de son Seigneur, avec une science venant d'Allah, en espérant la récompense, par crainte du châtiment d'Allah et en délaissant les interdits.
Mm-hmm. Donc on a dit quoi? Taqwa, c'est quoi? C'est pratiquer l'obéissance à Allah. Ça c'est le premier mot. Ta'at Allah Azza wa Jal. Pratique l'obéissance à Allah. Comment? Avec une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, c'est le reste de la définition. C'est quoi? Ben, c'est le contraire de pratiquer l'obéissance. On fait ça partie de la pratiquer l'obéissance de toute façon. C'est quoi? C'est de délaisser les interdits. Avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et la piété, c'est de délaisser la désobéissance à Allah. Délaisser la désobéissance, s'éloigner des péchés. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas que les péchés, mais tout ce qui est une désobéissance entre dans cette parole. Et la plus grave des désobéissances, c'est quoi? Qui dit shirk, qui dit autre chose? C'est quoi ce qui est le plus grave, l'interdit le plus grave en islam? Hein? C'est quoi ce qui est le plus grave en islam? C'est de forniquer, c'est de voler, c'est de quoi? C'est de boire de l'alcool? C'est quoi? Hein? J'entends les réponses, dites les réponses, j'entends. Hein? Non, c'est l'association à Allah, le shirk. C'est ça le plus grave. Shirk l'akbar. Il y a le shirk l'asghar. Il y a le bida'a. Et il y a le ma'asi. Le kaba'ir, etc. Et puis le sara'ir, etc. Hein? Le plus grave, c'est de quoi? D'associer Allah Azza dans l'adoration. Inna shirka, la zulmun azim. C'est la plus grande des injustices. Donc, Cheikh, il dit ici, et la plus grave des désobéissances, ou le plus grave des péchés, c'est de donner des associés à Allah et de mécroire en lui. Le kufr. C'est un péché énorme, puis après cela, il y a le fait d'innover dans la religion. Le bid'ah. Et de transgresser la voie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite tous les autres genres de péchés de désobéissance. C'est pour ça que les ulama ont dit que le bid'ah, c'est plus grave que kaba'ir dhunub. Celui qui fait une bid'ah, il fait ça en espérant se rapprocher d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a peur pour lui qu'il ne se repente pas. Parce qu'il lui croit que ce qu'il fait, c'est quoi? Ça fait partie de la religion. Comment est-ce qu'il va s'en repentir? Tandis que celui qui fait zina, et ça c'est, on va le parler dans le cours de demain, Inch'Allah, celui qui fait zina, ou qui fait qui boit de l'alcool, etc., ou qui vole, etc., même peut-être pendant qu'il fait l'action, qu'est-ce qu'il a? Il sent qu'il n'est pas bien, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Et peut-être que directement après, il dit, qu'est-ce que j'ai fait, astaghfirullah, Inch'Allah, je ne referai plus jamais ça, etc. Hein? Ça, on va en parler dans le cours de demain, Inch'Allah. Ah, j'ai déjà donné une indication, mais je vous assure, c'est un des nombreux points dans lesquels on va parler, Inch'Allah. Sa parole, délaisser la désobéissance à Allah, c'est donc tous les types de péchés, que ce soit la mécréance, donner des associés à Allah, innover dans la religion, les autres péchés, tu les délaisses tous. Comme on a dit tout à l'heure, c'est toutes les obéissances. Vous vous rappelez de ça? C'est important d'avoir cet esprit de synthèse. On a dit quoi? Que un ta'amal abita'atillah, c'est de faire tout. Les actes d'obéissance, c'est-à-dire le fara'id, nawafil, les actes obligatoires, les actes qui ne sont pas obligatoires. Et de l'autre côté, délaisser les désobéissances, c'est toutes les désobéissances. Alors tête, shirk. Elle couvre. Et Shirli, tu fais des efforts et tu te bats contre toi-même afin de les délaisser et de les repousser. Parce que c'est vrai, tu as besoin d'une mujahada. Tu as besoin de te battre contre toi-même, de battre contre ton nefs, etc. Hein? Walakin, encore une fois, la récompense. Et si tu ne le fais pas, le châtiment. Il y a à ce sujet une sublime parole de l'imam Maymoun ibn Mihran, encore un nom d'un imam. Allez, j'ai lâché un peu en arabe, mais c'est pour un peu vous aller un peu plus rapidement. Maymoun ibn Mihran, il a dit A'mal bir ya'maluha al-bar wal-fajir wa amma tark al-ma'siya fa la yaqwa 'alayha illa siddiq. Écoutez cette magnifique parole de Maymoun ibn Mihran. Il a dit, qu'Allah fasse miséricorde, elle a été rapportée par Abu Nu'aym dans le Hilya, et elle est citée par Al-Hafid ibn Rajab dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Qui sait me dire c'est quoi le Jami' al-Ulum al-Hikam? Personne? Non. Il a rajouté combien? Il a apporté 42 hadiths, on est d'accord? Dans son fameux les hadiths, les 40 hadiths, c'est 42. Hein? Ibn Rajab, il est venu après lui, il a fait quoi? Il a rajouté 8, du même type que les 42, pour finir combien? 50. Et il explique lui-même ces 50 et il appelle Jami' al-Ulum al-Hikam. Eh bien, Ibn Rajab, al-Hafid, c'est un titre, al-Hafid Ibn Rajab, il a dit, les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché, tandis que la désobéissance, seul un véridique est capable de la délaisser. Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et le débauché. Je donnerai peut-être un exemple illustrant cela. Nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Cheikh, il a donné ce dars avant le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse parvenir ainsi que vous à ce mois béni et qu'il nous enveloppe ainsi que vous de sa large grâce. Hein, et vous dites, ah, le Ramadan c'est loin, mon frère. C'est pas si loin que ça. Hein? Et les salafs, 6 mois avant Ramadan, ils demandent à Allah Azza wa Jalla de pouvoir arriver au mois de Ramadan. Et pendant les 6 mois après, ils demandent à Allah Azza wa Jalla qu'il leur accepte le Ramadan. Qui c'est d'entre nous, qui garantit d'entre nous qui va atteindre le prochain Ramadan? Certains de nos frères et de nos sœurs décèdent la nuit de Ramadan. Qu'est-ce que t'en sais? Qui peut-être que l'un d'entre nous va dire à son sujet, Rahimallah, de dire Mehdi, Rahimallah. Hein? Allah Alam, on ne sait pas. Hein? Et c'est celui qui dit Rahimallah, c'est celui qui t'aime, Allah Azza wa Jal. Qui t'aime vraiment. Comme disent les ulama, celui qui t'aime vraiment, c'est celui qui fait du'a pour toi. Qu'Allah nous donne une longue vie sur son obéissance, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Hildi, nous demandons, donc, en ce temps béni, en ce mois béni, les bienfaisants se concurrencent les uns les autres, n'est-ce pas, le Cheikh Hildi? Dans le fait de donner à manger, de donner des aumônes, en faisant différents types de bienfaisance envers les gens, et cela est un bien, et il faut aider quant à ce bien et y inciter. Ceci n'est qu'une manière de rapprocher le sens. Les actes de piété sont pratiqués par le pieux et par le débauché. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui donnent des aumônes et font des actes de bienfaisance sont des débauchés. Il n'est pas en train de dire ça, le Cheikh. Hein? Nous cherchons refuge en Allah contre ce sens. Et Cheikh dit, je n'y ai même pas pensé à ce sens-là. Le sens de cela est qu'en ce mois béni, les vertueux et les autres parmi ceux qui veulent se rapprocher d'Allah par des actions vertueuses sont au même niveau. Et il dit, tandis que le délaissement de la désobéissance, seul un véridique en est capable. Il est obligé de lutter contre son âme, en situation, surtout en situation d'isolement, car ces moments d'isolement montrent la réalité de l'âme et la mettent à nu. C'est quand tu es tout seul, mon frère en Allah. C'est quand tu es toute seule, ma soeur en Allah. C'est là que tu vois. Hein? C'est pas quand tu es avec tes frères de la sunna, tes soeurs de la sunna, tu vas pas commencer à faire le haram devant eux. Hein? Parce que si c'est vraiment des gens de la sunna qui craignent Allah, ils vont dire, akhi, 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 là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Hein? Et si tu veux pas écouter, ils vont se lever, ils vont te délaisser, ils vont dire, continue à faire ça si tu veux tout seul, nous on part, on t'a fait l'ansiha. Hein? Walakin, c'est quand tu es tout seul. C'est là, il faut voir. Hein? Il dit, il se peut que quelqu'un fasse certaines choses quand il est caché, mais aurait honte de le faire devant les gens, ou il prendrait des précautions ou serait vigilant. Alors, subhanallah, que qui est plus en droit d'être que de s'en pudique envers lui? Hein, qui? Que les gens? Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es tout seul, mais Allah te voit, Allah t'entend. Hein? Et il est plus en droit que quiconque que tu sois pudique envers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'envers les gens. Cheikh dit, mais s'il est seul en présence des choses interdites par Allah, il se peut qu'il commette ces interdits. Puis il cite un vers de poésie qui dit, si un jour tu te trouves isolé, ne dis pas, je suis isolé, mais dis, au-dessus de moi, il y a un observateur. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي يا رقيب يا رقيب الرقيب c'est Allah سبحانه وتعالى الرقيب سبحانه وتعالى comme l'un des plus prédécesseurs a dit, pratiquer l'obéissance et d'invoquer Allah, et meilleur que cela est de se rappeler de lui et donc de ne pas lui désobéir. Quant au délaissement de la désobéissance, Allah, à Allah, il dit, n'en est capable qu'un véridique. Il fut sincère envers Allah. Allah donc l'accepta, il combattit son âme et donc réussit dans son combat. Et la domina, et la vainquit. Mais de plus, il s'est isolé. S'il est isolé, il s'efforce à faire des actes d'obéissance qu'il ne fait pas. Quand il apparaît aux gens. Toi, tu es dans ta pièce toute seule, hein, et tu fais le wudu, et tu fais le takbir, et tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dit Cheikh Mokhbi Rahimallah, une des meilleures manières de réviser le Coran, c'est de prier Qiyam Lil avec ce que tu connais. Et je vous rappelle que les ulama, ils disent, comme Cheikh Al-Fawzan, ils disent que le musulman, il doit finir le Coran en lecture. Hein, au moins une fois par mois. Ça, c'est le minimum, Cheikh Al-Fawzan. Il dit un juz par jour, lire. Il dit, c'est le minimum. Les plus prédécesseurs, ils le finissent en 3 jours, en 5 jours, en 7 jours, en 10 jours. Si toi, t'es pas capable, fais-le au moins un juz par jour. Et c'est pas difficile quand t'as l'habitude de le faire. Et Cheikh Najmi Rahimallah, il recommandait de le faire le matin avant d'aller au travail, etc. Parce que les ulama, ils ont dit comment la journée, elle doit être du musulman. Cheikh Najmi, dans Fath Al-Wadud, Fil Fatawa ou Al-Masail ou Al-Rudud, c'est deux tomes de réfutation, de Fatawa, etc. de Cheikh Najmi, il expliquait ça. Il expliquait c'est quoi le programme d'un musulman dans sa journée. Par quoi il commence sa journée, etc. Et par quoi il la termine. Hein? Au moins un juz. Qui d'entre nous fait ça? Moi, je n'ai pas de réponse, mais hein, celui qui fait, alhamdulillah. Et qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, encore une fois. Qiyam al-Layl, t'es tout seul. Écoute un dars. Fais Qiyam al-Layl. Si c'est la nuit. On fait des nawafil. Lis le Coran. Mémorise des hadiths, etc. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'Allah te voit. Et tu cherches que, hein, le fait qu'il soit satisfait de toi, subhanahu wa ta'ala. T'as pas besoin que les gens soient autour de toi. Donc, Cheikh, il dit, à l'imam, écoutez cette belle parole. Hein, et nous, qui se revendiquons des salafs, eh bien, qu'on revienne à leurs paroles à ces salafs-là. Abdullah ibn al-Mubarak, avec ce nom-là, pour les frères qui connaissent un peu sa biographie, il a son poids. Ibn Mubarak, rahimahullah, il est rapporté de lui qu'il faisait le jihad, rahimahullah, avec le visage caché. Et qu'à un moment, il y a son litham qui est tombé de son visage, et ils ont dit, c'est toi l'imam. Et il se cachait par ikhlas, Allah Azza wa Jal. Regardez l'ikhlas. Il cachait son visage pour pas qu'on voit. Abdul Mubarak, qu'est-ce qu'il dit? Qu'avons-nous de voir ces hommes, c'est-à-dire qui ont des visages lumineux? Ils ont demandé à Abdul Mubarak. Il dit, ceux-là s'isolèrent avec la lumière d'Allah, alors Allah les habilla de sa lumière, et ceux-là, car, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu la nuit, c'est un verset du Coran sur la Dariyat, versets 17 et 18. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il leur a donné une lumière. D'ailleurs, certains ulama, ils ont dit, que certains salafs, ils ont dit, qu'ils voyaient sur le visage de quelqu'un quand ils priaient pas le witr. Nour l'ibada. Nour taqwa. Que nos visages, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nos visages soient illuminés par le taqwa. Et qu'on soit parmi les pieux qui rentrent dans ce genre de verset-là. Écoutez le verset. Kanu qalila min al-layli ma yahji'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et c'est un des meilleurs moments pour demander quoi? Pardon, il demandait du'a. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel terrestre, d'une descente qui lui convient, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, فَهَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهْ وَهَلْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهْ. Y a-t-il quelqu'un qui me demande que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Et c'est ce qu'on appelle, آخر ثلث الليل. C'est le dernier tiers de la nuit. Et Cheikh Fawzan, hafidah Allah ta'ala, il dit ce sont des rendez-vous azim, mawasim azim. Il a dit que le musulman ne soit pas comme un cadavre, et qu'il rate ses uns, qu'il dorme comme ça, et qu'il soit, comme nous peut-être nous sommes. Et qu'il fasse attention à ce genre de rendez-vous, à ce genre de moments importants. Et allez, un petit peu, un minimum. Tu te lèves un peu avant le fajr, tu fais une raka'a. Le qiyam al-layl, ça peut être une raka'a. 3, 5, en fonction de ta capacité. Et comme Cheikh Bezmouli dit dans Sharh Sifat Salah, c'est mieux de faire un peu tout le temps constamment que de faire, beaucoup et puis t'arrêtes. Les meilleures des actions sont celles qui sont constantes, et même si elles sont peu, tu t'éduques. Une raka'a, 3 raka'a, etc. Jusqu'à ce que tu te sentes, si tu sens un peu plus de force, fais plus. Voilà que tu es toujours quelque chose de constant. C'est pour ça que Cheikh Falah nous a dit que talib ilm la yabudda lahu an yakuna lahum wirdun min al-layl. Comment un talib ilm ne peut pas avoir une partie de qiyam al-layl dans sa nuit? Comment? Cheikh, on ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas. La yabudda, il doit avoir un wird min al-layl. Il doit lire le Coran, il doit avoir une partie de sa nuit en ibadah. Cheikh, il dit, as-tu compris au serviteur d'Allah? Il dit, tandis que délaisser la désobéissance à Allah n'en est capable qu'un véridique. Tu as besoin de combattre ton âme. Car l'âme qui incite au mal désir, elle brûle d'envie. Elle a besoin d'être bridée. De quoi a besoin l'âme? Elle a besoin de dressage. Car si tu la dresses, elle t'obéira, tandis que si tu la laisses, elle voyage et elle erre. Et Cheikh, il va rapporter une faïda très intéressante. Il va dire... Ça va, il est encore tôt. Hein. Il a apporté ce qu'on a dit, at-tarwid. At-tarwid dans la langue arabe. C'est quoi le tarwid? Il va expliquer c'est quoi. C'est quelque chose qu'on fait avec les chevaux dans la langue arabe. Et vous savez que les arabes, ils aiment bien les chevaux. Hein? Il y a des textes sur la sunna, etc. Eh bien, il dit, le tarwid, معلوم عند أهل الخيل وهو التي يقال عنها الخيل المدمرة الخيل ليست على رتبة واحدة بعد الخيول التي تركب للسباقات وغير ذلك تجد أن قوامها وجسدها متناسخ إلى غير ذلك بخلاف التي تجر العربات وتعمل في الحقول شكلها وبنيتها تختلف فإذا ما أراد تعويد فرس أو خيل إلى مضمار السباق يروضونها شيخ الدي Le dressage, il est connu chez les gens qui s'occupent des chevaux. Les chevaux qu'on appelle les chevaux entraînés. Les chevaux ne sont pas tous au même niveau. Vous voyez que les chevaux compagnards, etc., qui sont dans la campagne, dans les fermes, etc., c'est pas le cheval de course, c'est pas le pur sang. Ils sont différents. Certains chevaux qui sont montés dans des courses et autres ont une stature et un corps proportionné, etc. Ils ont une musculature. Hein, ils sont faits pour la course. Quand tu les vois, Annie, tu vois que c'est un cheval, Annie, qui est puissant et qui est rapide et qui est fait pour la course. Il dit contrairement à ceux qui tirent les chariots et travaillent dans les champs car leur forme et leur constitution sont différentes. Donc s'ils veulent habituer un cheval ou des chevaux pour les champs de course, ils les dressent. Il y a un dressage qui se fait. C'est pas que tu l'envoies dans le champ de course. Vous allez voir pourquoi il parle de ça et qu'il parle de l'âme en fait. Il dit le dressage consiste à le faire entrer à un endroit et à ne pas lui donner à boire ni à manger. Et il le dresse et lui donne de l'eau à manger avec mesure et parcimonie. Et l'entraîne à la course, au sport et à la vitesse. Tu vois qu'après un certain temps, le cheval obéit au dresseur qui s'il lui dit « Lève-toi, il se lève » et « Assieds-toi, il s'assied ». Cours, il court, arrête-toi, il s'arrête. Eh bien, de quoi le même l'âme, nefs. Elle a besoin de ce dressage. Dresse-la donc. Bride-la avec la bride de la législation islamique, le cheikh, il te dit. Retiens-toi de ne pas commettre l'illicite, et c'est même si ton âme le désire, et nous cherchons refuge en Allah contre cela. Tandis que l'obéissance incite l'âme à vite s'en acquitter et presse là et cela. C'est-à-dire que incite ton âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et retiens-la quand elle t'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit, il cite un verset du Coran, wasari'u, wasabiqu, hein, wasari'u, wasabiqu. C'est-à-dire que tu presses ton âme. Pourquoi il y a des versets du Coran qui disent, et concourez, et hâtez-vous, hâtez-vous. Est-ce clair, le cheikh dit? Donc le délaissement de l'obéissance avec une lumière venant d'Allah. La lumière ici est la même que la précédente. C'est donc le délaissement de la désobéissance basé sur une science. Puis il va donner un exemple. On arrive à la fin, alhamdoulilah. Certaines personnes peuvent commettre quelque chose d'illicite. Le cheikh dit, n'est-ce pas? Alors qu'ils savent, ils ne savent pas que c'est illicite. N'est-ce pas? Cela est connu. Plus de détails maintenant. Certaines transactions financières peuvent être faites par certaines personnes pensant qu'elles sont autorisées, alors qu'en réalité elles sont interdites ou ambiguës. Le délaissement de ces transactions nécessite qu'ils en aient la connaissance. C'est pour ça que des paroles comme d'Omar ibn Khattab, il disait que nous n'entrerons dans nos marchés que ceux qui connaissent les jugements. C'est-à-dire que tu veux vendre, ben toi ça devient wajib pour toi d'apprendre. C'est ce qui concerne les transactions de vente, etc. Cheikh dit, le délaissement de ces interdits requiert donc quoi? Il requiert une science. Et c'est pour cela que Dahabi, rahimahullah, il a dit, c'est car le fait de s'écarter des désobéissances requiert de les connaître. Comment tu veux t'en écarter si tu ne connais pas? Comment? C'est pas possible ça. Toi, tu ne sais pas que c'est une désobéissance, que ce soit une parole ou une action. Certaines personnes commettent ou disent une parole illicite et ne savent même pas qu'elle est illicite. Ceci est une chose vue et connue. Même comme on a vu dans le cours que je donne chez nous là-bas, tous les samedis, des annulatifs de l'islam, Cheikh Bezoum il a rapporté des preuves, voir que des fois quelqu'un peut dire une parole et c'est même pas ce qu'il dit, que ça l'a fait sortir de l'islam. C'est pour ça que le ulama dit ce qu'il faut apprendre, n'avoir que l'islam aussi pour t'en écarter. Ce qui annule l'islam, ce qui annule tout ton islam. C'est-à-dire que t'es khalas, t'es un kafir, wa'adhu billah. Hein? Peut-être que tu dis des choses ou tu fais des choses et tu ne sais même pas. Et qu'à cause de cette chose-là, quoi? Eh bien, il se peut que tu sortes de l'islam. Cheikh dit, tu ne délaisses Vous vous rappelez la définition, craignant le châtiment d'Allah. On en arrive à la fin. Tu ne délaisses le péché ou cette désobéissance que parce que tu crains Allah. Car Allah, ya'lamu, c'est encore sur notre affaire, hein, ya'lamu, kha'inat al-a'yuni, wa ma tukhfi as-sudur. Car Allah connaît la trahison des yeux. Hein, ce petit regard comme ça que tu glisses vite. Hein? Allah le connaît. يَعْلَمُ خَانَةَ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Tout comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. La trahison des yeux, quelle est-elle? C'est le fait de bouger les yeux comme cela. Évidemment, le cheikh, on ne sait pas comment il l'a fait, mais on devine comme je viens de vous le faire. Mais de plus, il sait, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, mais de plus, il sait ce que les poitrines de tous les gens cachent. Allahu Akbar. Tous les gens. Ce qu'ils ont leur poitrine, tous les gens ce qu'ils voient, tous les gens ce qu'ils font, Allah le sait. Ça vous montre Adamat Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est des choses à méditer, hein. Toutes ces différentes langues, tous ces différents endroits, ces différentes conversations, ces différentes actions, ces différentes situations, ces différentes personnes, ces différents temps, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Même ce qu'ils cachent tous dans leur poitrine. Subhanahu wa ta'ala. Il connaît les secrets, certes les secrets même les plus cachés. Hein? يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Et il connaît la trahison des yeux comme tout comme ceux que les poitrines cachent. Mais de plus, le verset de Surah Taha a un sens sublime. Quel verset? يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. C'est quoi le sens? Écoutez le sens. Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, quel est le sens du secret? Ya'lamu sirra. Sir en arabe secret. Wa akhfa. Cheikh, il dit, le sens du secret dans ce verset, c'est quoi? Il se peut que quelqu'un dise que ce qu'il voulait ici, c'est le secret entre deux personnes. Hein? Car si une chose est secrète entre deux personnes puis divulguée, ce n'est plus un secret. C'est fini, car c'est divulgué. C'est-à-dire, vous, hein, toujours, Akhif, je dis quelque chose, mais ne le dis à personne. Après, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle va chez un autre, Akhi, je te dis un truc, mais tu le gardes pour toi, tu le dis à personne. Et après, tout le monde est au courant, alors que toi t'as dit, hein, et chacun il a dit, comme toi tu as dit, de le garder pour lui. Ça c'est, attention, en sharia, il y a des ahkam là-dessus. Quelqu'un il te donne un secret, tu es obligé de le garder. Là, faut faire un cours là-dessus, etc., c'est encore autre chose, mais tu vas pas commencer à divulguer les secrets des gens. Quelqu'un il t'a fait confiance, il t'a donné un amana, il t'a dit, laisse entre toi et moi, Allah, Yizik, etc., tu le laisses entre toi et la personne, tu vas pas le rapporter aux gens. D'ailleurs, un jour, il y a un frère, il y a un couple qui a demandé l'intervention du frère parce qu'ils avaient des problèmes dans le couple. C'est une histoire que je vous raconte. Et le frère, après, il a dit, Zakla khair, garde ça pour toi, barakallahu fik, alhamdulillah, etc., etc. Après, la femme du couple, il y avait un problème, elle a rencontré la femme du frère qui est intervenue dans le couple. Hein? Vous suivez ou pas? Elle a dit, oui, voilà, tu es au courant? Elle a dit, non, je suis pas au courant. Elle a dit, quoi, ton mari t'a pas dit? Ben non, il m'a pas dit. Mais pourquoi il a pas dit? Parce qu'il a tenu le secret. Vous comprenez ça ou pas? Hein? Alhamdulillah, il y a des gens qui le font, alhamdulillah. Elle était étonnée, bah attends, ton mari t'a pas dit. Hein? Oui, ton mari t'a pas dit. Franchement, j'avais pas entendu ça. Je savais même pas qu'il était venu chez vous, qu'il était intervenu dans, hein? Inch'Allah, on verra. Mais si tu fais ça, après les sœurs elles vont être pas contentes et puis les gens sur internet vont pas être contents. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as quelque chose ou t'as pas? Un ou deux ou combien? Inch'Allah, on verra. Donc on disait quoi? Quel est le sens de secret ici? Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Regarde ce sens pointu dans ce sublime verset. L'imam Al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, le sens du secret ici est ce que l'individu se dit à lui-même dans son fort intérieur et que ses lèvres ne prononcent pas. Les secrets dont il connaît certes les secrets même les plus cachés, c'est ce que l'individu se dit à lui-même dans son fort intérieur. Toi, tu te parles en toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et il dit, et que tes lèvres n'ont pas prononcé. Il ne l'a même pas dit. Et plus caché que les secrets, Il connaît certes les secrets, même les plus cachés, c'est-à-dire est plus caché que les secrets. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit, c'est-à-dire qu'Allah sait ce que son serviteur va se dire à lui-même. Dans son fort intérieur, telle et telle chose, alors que ce n'est même pas encore arrivé. Allahu Akbar. Hein? Voilà donc le sens de, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Vous comprenez un peu tout ce qui, comment c'est lié à taqwa ou pas tout ça? Si tu sais tout ça, qu'est-ce que ça te pousse à faire, toi? Hein? À craindre Allah dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, même si tu es seul. Et qu'Allah connaît la trahison des yeux. Et il sait ce que tu caches dans tes poitrines et même ce que tu vas te dire, ce que tu te dis à toi-même dans ton fort intérieur et avant que tu le dises, ce que tu vas dire à toi-même. N'oublie pas cela. Cheikh, il dit, regardez cette belle question, il dit, Allah n'est-il donc pas en droit que l'adoration lui soit vouée à lui uniquement, subhanahu wa ta'ala, et que l'adoration lui soit vouée pure à lui seul, et que les échines lui soient soumises, et que les serviteurs se soumettent à lui, subhanahu wa ta'ala, et que donc ils se jettent devant lui, se tournant vers lui, repentant, demandant son pardon, se dirigeant vers lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc la réalité de la piété, ô mes frères bien-aimés. Donc la piété, c'est pratiquer l'obéissance d'Allah et délaisser la désobéissance à Allah. Et cette science, la pratique et le délaissement sont basés sur la science. En suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en étant sincère envers Allah, c'est cela le sens de la piété. Le ulama conseille, si vous sentez un peu somnolent, vous avez un peu mal, bougez un peu. Hein? C'est un conseil que mes chéris donnent dans les cours. Hein? Si vous sentez que vous bougez un peu, etc. Hein? D'accord? Mettez-vous en place là pour un peu vous réveiller. Wallah, on les sent pas, sarahatan. Le cœur, il est léger, ça, on est là. La poitrine, elle est apaisée, t'as pas envie de partir. Des fois, on avait cours avec Cheikh Valah jusqu'à minuit, une heure du matin, on voulait qu'il reste. Alors qu'on devait travailler le lendemain matin, etc. Hein? Et là, il fajr, etc., etc. T'as envie qu'il continue, subhanallah, parce que pourquoi? Hein? L'ilm. C'est des majalis de sakina, d'apaisement. Cheikh, il dit, c'est cela le sens de la piété. Connaissez-vous son sens dorénavant? Moi, je vous pose la question. Vous connaissez le sens de la taqwa maintenant? Hein? C'est quelqu'un qui dit non, j'ai raté mon cours. C'est une bonne évaluation pour un prof, ça. Faut dire, c'est non, hein, c'est pas un problème. C'est ce que nous, on fait avec les enfants. Quand on, à l'école, j'enseigne. Et on leur demande à la fin s'ils ont bien compris, etc. Et on voit en fait, parce que des fois des enfants, ils osent pas dire qu'ils n'ont pas compris ou hein, ou on leur pose des questions pour voir s'ils ont bien compris. Parce que des fois ils estiment avoir bien compris, mais ils n'ont pas bien compris. Hein? C'est pour ça que le frère là, il est venu murmurer dans l'oreille. En fait, il a proposé de faire des questions-réponses. Attention, hein, c'est pas vous qui allez me poser des questions. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un chier, c'est moi qui vais vous poser des questions. Et celui qui répond bien, il a des cadeaux. Et si les sœurs elles répondent bien, mais qu'elles envoient un enfant avec la réponse, ou alors on leur fait confiance, on enverra la moitié des cadeaux, hein, et que les sœurs qui ont bien répondu, elles prennent en premier, et que les autres, elles prennent le reste. Donc c'est quelque chose que je fais dans les dorats chez nous là-bas, c'est qu'on pose des questions, notamment aux sœurs, etc., et les sœurs qui font des résumés de cours, etc., ou qui répondent bien aux questions, on leur donne des cadeaux, etc., elles ont reçu des volumes dans des fatawas sur les messaïl des femmes, etc., et d'autres cadeaux, etc. Alors je vois que tout le monde se redresse un peu. J'aurais dû le dire au début. Donc vous connaissez maintenant le sens du verset dans la traduction du sens est « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint. » C'est cela le sens de « comme il doit être craint. » Mes chers frères, la piété a 3 degrés. Maintenant on va voir les 3 degrés. On a vu sa définition, son sens, maintenant c'est 3 degrés. Le premier, comme l'a dit Ibn Qayyim, la préservation du cœur et des membres des péchés et des choses illicites, quelles que soient leurs différentes formes. C'est là, et donc quoi le premier degré? Deuxième degré de la taqwa, il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, est la préservation des choses détestables. C'est-à-dire au début on a quoi? C'est quoi? Les choses qui sont interdites. Puis on a les choses qui sont makruh, détestables. D'accord? Parce que des fois les gens disent, ah c'est makruh, mais allez, je peux continuer à le faire, etc. Là, va voir ce que l'ulama dit sur le makruh, et pourquoi il l'appelle makruh, et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et comment tu dois le délaisser, etc. Et pourquoi tu dois le délaisser? Apprends ton dîn. Donc la préservation des choses détestables. Ne dis pas, c'est la parole du cheikh, c'est une chose détestable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à cela. Ah, makro. Même certaines fois, ils disent des choses sur haram, ils disent makro. Est-ce la cigarette, c'est makro, ma'alif? Hein? Et quoi? Karra, il est comme le kufra, ou le fousouk, le isien, le kufra aussi, c'est makro. Hein? Ma'alif, tu peux le faire. Ah, la cigarette, c'est haram. Les ulama, ils ont expliqué pourquoi. Donc même des fois, les choses qui sont interdites, ils le rendent macro. Ou les choses qui sont macro, ils disent, c'est pas grave, c'est macro, mais allez, on le fait, etc. On dit, quand c'est une sunna, c'est quoi? Ah, c'est pas grave, on la fait pas. Et des fois, c'est des choses qui sont obligations, comme la barbe, par exemple, ou d'autres choses, ils disent quoi? C'est une sunna, mais allez. Ou même quand c'est vraiment une sunna, ils disent, mais tant que c'est une sunna, mais allez. Et quoi, tu veux pas le khair, toi? Tu veux pas avoir des degrés dans la taqwa? Hein? Ne veux-tu pas faire partie des pieux qui craignent Allah comme il doit être craint, cheikh, il dit? Et le musulman toujours il cherche le meilleur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est Allahumma arzuqna al-firdaus la'ala. Tu demandes le jannah, le meilleur de le jannah. Et puis le cheikh il dit, ne veux-tu pas faire partie des pieux qui craignent Allah comme il doit être craint? Ceux à qui Allah a promis que, et regardez le verset comme il est clair. Inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux. Mais non, tu ne veux pas faire partie de ces pieux-là? Surat al-Qamar, verset 54. Hein? Et ce n'est pas le sujet du cours, mais il y a des délices dans le Jannah. Et parmi les choses que les hommes auront, c'est quoi? C'est Hur al-Ayn. Et dans un de mes cours, il n'y a pas longtemps, à Birmingham, c'est enregistré sur notre site spfbirmingham.com, j'ai fait un petit rappel sur c'est quoi Hur al-Ayn. Et j'ai rapporté de Nouniyad ibn Qayyim les vers de poésie sur Hur al-Ayn, qui sont des belles femmes aux grands yeux noirs, etc. Hein? Et que ça va les frères? Et respirez, je veux que les respirations soient un peu bloquées là. Qui est pas marié ici? Qui est pas marié? Oui, chaque fois que je viens, je pose la même question, c'est les mêmes lins qui se lèvent. Hein? Les VO, faut pas avoir peur, les VO qu'on voit, hein, qu'on compte. Ah, maintenant, il y en a beaucoup. Mais toi, t'as quel âge, toi? Hein? T'as quel âge? 12 ans! Non, toi. T'as quel âge, toi? 16 ans. Oh, alhamdoulilah, il peut lever la main. T'es marié, toi, non? Non? Ah, ok, ça va.
De 1 ou de 4?
Hein? On demande à Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, qu'il vous donne des femmes pieuses. Hein? Et ça, c'est une chose que je voudrais faire un rappel aussi. C'est que ça fait partie de ta'awun al-bir wa taqwa, c'est que vous vous entraidiez les uns les autres à vous marier. Parce que nos sœurs qui s'accrochent à la sunna, elles aspirent à un homme qui s'accroche à la sunna, un vrai, hein? On va dire un mâle, pas un homme. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que certains ulama disent qu'après sahaba, khlas, tu dis pas, hein, c'est eux, rijal. Il a dit, nous, on est des mâles, khlas. Elles aspirent à ça, mais d'un autre côté aussi, il y a les frères qui aspirent, quoi. Hein? À des sœurs qui s'accrochent à la sunna, qui, Inch'Allah, font partie des pieuses. On parle de la piété ici. Hein? Et donc, il faut aider pour les frères qui sont mariés, qui ont des contacts ou qui connaissent des gens, etc. Si vous voyez le bien en quelqu'un, hein, ou quelqu'une, d'accord, eh bien, de quoi de les aider, d'essayer arranger cela. Après, c'est eux qui prennent la décision, ils font stikhara, etc. Hein? C'est quelque chose que nous, on fait à Birmingham. À Birmingham, on a même un frère qui fait que ça, et les gens remplissent des dossiers. Hein? Ils remplissent un formulaire, les sœurs remplissent un formulaire, elles doivent avoir 2 recommandations de quelqu'un de confiance, des frères la même chose, hein? Et ils remplissent un formulaire chacun de son côté, et les frères, ils essaient de voir, hein? Sans voir les photos, bien sûr, hein? Mais ils essaient de quoi? D'organiser des rencontres, etc. Et évidemment, ça se fait avec le wali, avec le tuteur, etc. Hein? C'est pas que la sœur, le frère se rencontre au McDonald's ou se rencontre à, hein? Ou bien, ils vont dire non, mais c'est pas grave, c'est à la mosquée ou la haja, hein? Là. C'est que le mahram, il doit être là. Il doit être présent. Tu ne retrouves pas un frère tout seul et une sœur toute seule, ça marche pas, ça. Hein? Et c'est important aussi, pourquoi? Parce qu'il y a certains de nos sœurs, certains de nos frères qui peuvent faiblir et tomber dans quoi? Dans le fait de commencer à chatter sur internet avec les gens de l'autre genre, la gente féminine et la gente masculine, d'accord? Et qui commence à... Ça, c'est pas un bon moyen de se marier. Ça, c'est pas un bon moyen de se marier. Évitez ça. Vous ne faites pas avoir par shaitan. Commencez pas à aller chatter dans les forums, aller commencer sur Twitter ou là sur Facebook ou la kadaka, etc. Hein? On a qu'une troulou, elle bouillotamine, elle boit biha. rentrer dans les maisons par leurs portes. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Pas par le toit. Ça, si tu veux grimper le mur et monter par le toit, tu risques de te casser le cou. C'est ton problème. Hein? D'accord? Voilà qu'il l'a utilisé truq shar'iyya. Et c'est ça qui amène le baraka. Si tu veux trouver une femme qui se respecte et qui est bien, c'est ça. Et toi aussi, ma soeur, si tu veux trouver un frère qui se respecte, hein? Et pas qu'un frère qui a plusieurs écrans devant lui, chatte avec l'une, avec l'autre, avec Kada, il a plusieurs écrans, hein? Il gère les écrans, etc., hein? Tu vois, un écran, il est rose, un écran, il est rouge, un écran, il est Kada, hein? Avec Oum Foulan, Kada, Kada, etc., hein? Non, ça c'est pas. Toi, tu crois qu'il est en train de dire des choses, il est en train de dire les mêmes choses à l'autre, hein? Qui est aussi sur Internet avec lui. Non, et c'est important de, et il faut vous marier, ikhwan. Man, ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hein? C'est le prophète Azam qui a dit ça. Si vous avez la capacité, mariez-vous. Et celui qui est pas capable, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi la tradition prophétique vis-à-vis de ça? Jeûne, mon frère. Somme, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yughniyak Allah min fadlihi. Et ne tombe pas dans le haram. Parce que le haram, il va pas t'amener du bien, ça. De toute façon, c'est une règle, ça, à comprendre. Hein? Mais c'est important, parce que je sais que je connais des frères, alhamdoulilah, ça fait des années, s'accrochent à la sunna. Et ils arrivent toujours pas à se marier. Alors que, alhamdoulilah, hein? Ah, moi, je me rappelle, mon frère, à mon époque, à moi, il fallait trouver une sœur, Annie sur le menhaj. Hein? Il fallait en trouver, hein? D'accord? Et maintenant, alhamdoulilah, on entend qu'il y a des certaines sœurs qui pratiquent la sunna, on entend qu'il y a certains de nos frères, alhamdoulilah, et on voit que certains de nos frères qui pratiquent la sunna. Donc maintenant, c'est un peu difficile pour eux, c'est des fois, quand ils peuvent pas passer par la famille, de quoi de, hein? De trouver de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous, alhamdoulilah, on a cette séparation entre les hommes et les femmes. Et d'un autre côté, attention, faut pas commencer à zikir n'importe qui. Un frère vient et commence à te fréquenter, ça, ah, vas-y, ouais, un frère, mashallah, un frère, mashallah, et après, Allah musta'an. Hein? Non, parce que toi, t'es responsable. Mais si tu connais du bien du frère, tu dis du bien du frère, tu dis la vérité. Tu rajoutes pas, t'enlèves pas. Si tu connais un défaut, tu le dis aussi. Si on te demande. Et que si tu connais quelqu'un de bien, eh bien, tu le recommandes auprès de la famille, auprès de gens, etc. Et moi, je sais parce que je connais certains pères de famille, qui aiment la sunna, etc. Ils ont certains de leurs filles, ils vont venir tous me voir après, tu vois, hein. Ou, de l'autre côté aussi, certains frères, etc. Ils arrivent pas à marier leurs filles, ils arrivent pas à marier. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, les gens de la sunna, ils se marient pas avec n'importe qui. Une sœur de la sunna, elle va pas se marier avec un tekfiri, ou un tebliri, ou un khurafi, ou là, hein. Elle va pas aller se marier avec des gens comme ça. Et de l'autre côté, un frère, il va pas se marier avec une, parmi les gens de l'innovation religieuse, ou une qui craint pas Allah, qui s'habille n'importe comment, ou là, qui, hein. Ou là, qui s'arrange, le bain maquillé, etc. Et aussi, faites attention, hein, le shaitan, des fois, il a des voix comme ça pour essayer d'embellir les choses. Genre, le frère va commencer à suivre la sœur en rue. Il y en a, je vais aller voir la bite, je vais aller voir le tuteur. Là. Et comme Cheikh Falah, quand il lui a posé la question, il a dit, pourquoi tu la suis? Parce que tu la trouves belle. Elle dit, qu'est-ce que t'en sais qu'elle va être belle comme ça vraiment à la maison? Elle a dit, elle est belle parce qu'elle s'est fait belle pour aller dehors. La réalité, Allah alim, c'est trop chose. Hein, il a dit ça se passe pas comme ça passe dans ma famille, ils vont voir la famille de la femme, etc. Hein, et ça se passe comme ça, ou par les gens qu'on connaît, etc. C'est comme ça les bonnes voies. Ou comme nous on fait, comme je l'ai dit, on organise ça, hein, et c'est important d'essayer d'organiser ça un jour ou l'autre, mais il faut que les gens qui organisent ça, ils aient la tête sur les épaules, et sachent ce qu'ils font, et craignent Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parce que ça peut amener des problèmes aussi. Walakin, quand c'est bien fait, c'est important. Donc on parlait de quoi tout à l'heure? Tout ça parce que je parlais de Hur al-Ayn. Lisez les hadiths sur Hur al-Ayn. C'est les femmes de Jannah, Hur al-Ayn. Comme les Umayyad les décrivent, elles sont belles physiquement et elles sont belles en comportement. Et Allah leur a donné deux types de beauté. Hein? Et après, si vous voulez, je vous rapporte encore d'autres hadiths. Cheikh, il dit ceux qui et qui, etc., les pieux, soient constants et montent en degré. Il dit, il a préservé des choses détestables, puis il dit, maintenant c'est le troisième degré. Premier, c'était quoi? Les choses interdites, délaissées. Deuxième, c'était quoi? Les choses détestables. Et troisième, la préservation de ce qui est en plus et de ce qui ne te concerne pas. Sa préservation de ce qui est en plus et de ce qui ne te concerne pas, ne t'immisce pas dans ce qui ne te concerne pas. Laisse. Quel est donc le résultat? Ne t'immisce pas dans ce qui ne te regarde pas. Allah t'a préservé, alors remercie-le de t'avoir préservé. Il y a un hadith qui dit quoi? Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. fait partie du bon islam de quelqu'un, hein, de quoi qu'il laisse, ce qu'il ne regarde pas. Tu ne mises pas dans les affaires des gens. Il dit le premier degré, il donne au serviteur, c'est Bilqayyim toujours ici, hein. Le premier degré qu'on a dit, il donne au serviteur sa vie. C'est tu préserves ton cœur et tes membres des péchés et des désobéissances. Puis il dit, le deuxième a comme bénéfice sa bonne santé et sa force. Regardez le fawaïd, maintenant il rapporte les fruits de taqwa. Délaisser le haram, ça te donne ta vie. Délaisser le makruhat, les choses détestables, ça te donne ta bonne santé et ta force. S'il délaisse quoi? Les choses détestables. Le troisième, il lui donne sa joie et sa bonheur et sa gaieté. Vous savez maintenant, mes chers frères, maintenant si je vous pose la question, vous savez c'est quoi taqwa? Hein? Si tu connais autour les serviteurs croyants vertueux ce sens, ces sens précis, et que tu t'arrêtes à ce sens voulu, je dis si tu connais la réalité de la piété, le sens ne t'échappera pas. Ibn al-Qayyim, quand il fait ce miséricorde, il a dit, si tu t'arrêtes au sens de la piété, ce qui est voulu ne t'échappera pas. Si tu t'arrêtes au sens de la piété, c'est-à-dire ce qui est voulu par la piété. Ce qui est voulu ne t'échappera pas car tu l'auras mis en application. Mes chers frères, chacun d'entre nous a des choses qui lui arrivent dans sa vie, n'est-ce pas? Et on demande à Allah qu'il nous aide et qu'il nous guide et qu'il nous facilite. Et nous avons besoin malgré tout cela qu'Allah nous aide. Il y a donc une parole précieuse dite par l'imam Ibn Rajab. Encore une fois, rahimahullah, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera plein de douceur envers lui dans la difficulté. Et les ulama ils disent, et ça c'est un dars qu'on devrait faire un jour, qu'Allah il teste les gens que pas dans la difficulté. Nous on croit toujours que c'est quoi dans la... Hein, peut-être que c'est que dans la difficulté. Allah il te teste dans l'aisance aussi. Dans les deux. Regardez ici. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera plein de douceur envers lui dans la difficulté. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance et l'apaisement et la sûreté et la bonne santé. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera plein de douceur. Allah sera plein de douceur envers lui dans sa situation de difficulté, si une difficulté le touche. Le serviteur est donc, mes chers frères, entre les jugements d'ordre et les jugements des calamités. Il est entre les deux. Regarde certains pays autour de toi et médite. Hein? Regardez par exemple, un exemple concret, regardez la Syrie. Il y a des gens, ils n'ont pas de pain. Vous savez le pain que nous on va acheter une tartine, on va acheter ceci, on va acheter un, hein, on le veut comme ça, on le veut doré comme ça, gris, semi-gris, etc. Hein? Il y a des gens, et ils n'ont pas de pain. Et quand ils font la file pour le faire le pain, ils se font bombarder. Hein? Réfléchissez, regardez rien qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Regardez le khourouj encore par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Regardez la situation, c'est enfin, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils se font tuer par des snipers. Hein? Regardez dans certains pays où il y a eu ces, soi-disant, hein, ils appellent ça le printemps arabe, en fait, c'est l'hiver arabe. Hein? Il n'y a pas la sécurité qu'il y avait avant. Les gens, ils ont peur de sortir. Les gens, ils ont peur de sortir de chez eux. Regarde, toi, tu es dans l'Amn. Tu as un toit. Il y a des gens, ils n'ont pas de toit. Il y a un frère, un jour, il avait fait une khutbah al-Jum'ah, rien que sur le ni'ma d'avoir un toit au-dessus de toi. C'est une ni'ma d'Allah, subhanahu wa ta'ala. T'imagines, tu as des murs autour de toi, un toit au-dessus de toi, où tu peux te retrouver, te reposer avec ta famille, avoir ton intimité avec ta famille. C'est une ni'ma, ça. Où tu es préservé du froid, hein, et de la chaleur, etc. Un endroit à toi où te retrouver, il y a des gens, ils n'ont pas ça. Et certains de nos frères et nos sœurs, ils n'ont pas ça. La santé, comme Cheikh Al-Uthaymeen et d'autres savants, ils disent que la santé, c'est une couronne sur la tête des gens en bonne santé que ne voient que les gens malades. Tout ça, c'est des ni'am. Et les ulama, ils disent que une ni'ma ida shukirat. Les bienfaits, s'ils sont remerciés, ils restent. Et si, ils sont déniés, ils sont quoi? Ils sont déniés ou ils sont reniés ou ils sont pas remerciés. Eh bien, ils sont quoi? Ils partent. Non, ils partent. Donc toi, Allah il te donne, remercie Allah, fais plus d'ibadah, fais plus encore, fais plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va te redonner. Voilà, in shakartum, la azidan, nakum. Et si vous remerciez, je vous sers, je vous augmenterai. C'est Allah qui subhanahu wa ta'ala qui a dit ça. Ils étaient dans l'aisance, certains pays autour de nous, et les bienfaits, et nous demandons à Allah pour eux, pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse disparaître cette affliction. Regardez en Birmanie, même s'il est un, là, subhanallah, étrangement, la presse n'entend pas beaucoup parler. Nos frères et nos sœurs, ils se font massacrer, c'est un génocide, parce qu'ils sont musulmans. Des villages entiers qui passent. Hein? Faut savoir ça, ouais. Et ils essaient de passer le fleuve ou la mer pour aller au Bangladesh, ils se font refouler, ils reviennent vers les mouchriquins, etc., qui les exterminent, les massacres, etc. Ils sont dans des camps de réfugiés, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans, c'est tout, hein. Cheikh, elle dit, le serviteur est entre les jugements d'ordre. Et après, nous dit, non, mais il y a quelqu'un qui m'a regardé mal dans la rue, hein. Il m'a craché dessus, il m'a dit sale terroriste. Subhanallah, c'est rien du tout. Après, regarde ce que nos frères et nos sœurs, ils vivent. Et après, ah, tu vas savoir qu'il faut pas te plaindre. Cheikh, le verset dit, la traduction du sens, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Donc le serviteur, c'est important, il est entre les jugements d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les jugements de calamité. Jugement d'ordre, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Ainsi que d'autres versets et de nombreux hadiths qui t'ordonnent et t'interdisent. Ce qu'on appelle les jugements d'ordre. Ibn Qayyim, il a dit que le serviteur est entre les jugements d'ordre et les jugements des calamités. Tu es touché par une calamité comme une maladie ou la pauvreté ou etc. Et il dit, rahimahullah, il est donc en besoin et même contraint qu'Allah l'aide à s'acquitter des jugements d'ordre. Oui, c'est vrai. Toi, tu ne dis pas, moi je peux le faire de moi-même. Moi je pratique toutes ces choses et tous ces ordres. Non, si Allah ne t'y aide pas, tu n'en es pas capable. Jamais, impossible. C'est pour ça que quand on haye al-salah, haye al-falah, qu'est-ce que tu dis toi? La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, si Allah ne veut pas que tu ailles à la prière, tu n'iras pas à la prière. Et si Allah veut que tu ailles à la prière, tu iras à la prière, par Allah. Il dit, Cheikh, la réussite, c'est que tu connaisses l'obéissance et qu'à la tête et à t'en acquitter. C'est cela la réussite, qu'il t'y aide. Certains gens connaissent les actes d'obéissance, ils en entendent parler, mais ne les mettent pas en application. Nous lui disons, cela fait partie du manque de réussite qu'ils sachent et qu'ils ne mettent pas en application. Le serviteur est donc en besoin qu'Allah lui facilite. Il y a un frère qui nous a fait un cours il n'y a pas longtemps dans la conférence chez nous, il a rapporté une super faïda dans surat al-Fatiha d'Ibn Qayyim. Je sais que ça va faire encore un peu plus long, mais il ne reste plus qu'une page. Mais c'est tellement magnifique ce qu'il a dit, le Qayyim, que j'ai envie de vous le rapporter. Et ils lui ont posé la question, ils ont dit, mais on est guidé, pourquoi est-ce qu'on doit dire « Ihdina sirat al-mustaqim » Il a dit, le frère, il a donné un exemple, il a dit, ce que dit le Qayyim, il a dit, maintenant, si toi tu regardes tout ce que tu connais, hein, et tu le mets en perspective par rapport à toute la science, combien, on va dire, allez, combien vous connaissez les frères, par rapport à toute la science. Quoi, on va dire, on va être généreux, quoi, 5%, 10, hein? Donc il y a déjà combien qui sont partis, hein? D'accord. Il a dit maintenant, de ces 5 ou 10%, combien tu as juste l'envie de les mettre en pratique? Enlève encore, hein? Et ce que tu as envie de mettre en pratique, combien tu mets en pratique? Enlève encore. Donc tu comprends que tu as besoin de guidance, ça demande Allah Azza wa Jalla la guidance. Cheikh dit, le serviteur a donc besoin et même contraint qu'Allah l'aide. L'aide d'Allah afin qu'il s'acquitte des jugements d'ordre et il a besoin qu'Allah soit pleinement doux envers lui dans les jugements des calamités. Si une calamité te touche, tu demandes la grâce d'Allah et la sécurité, n'est-ce pas? Ne connaît-il, c'est la traduction d'un sens du verset, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Surat al-Mulk. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, la douceur envers un serviteur dans les jugements de calamité, et c'est ça la phrase à retenir maintenant. La douceur envers un serviteur dans les jugements de calamité sera donc proportionnelle à sa mise en application des jugements d'ordre. Ça c'est Ibn Qayyim, là vous goûtez un peu Ibn Qayyim. Hein? C'est pour ça que les ulama disent Cheikh al-Islam Taymiyyah wa tilmiduhu al-Qayyim ibn al-Qayyim. Regardez l'élève de qui et le Cheikh de qui. Regardez rien que ces deux personnes. Les ulama disent Ibn Taymiyyah yakfihi sharafan qu'Ibn al-Qayyim c'est son élève. Yani, il lui suffit Ibn Taymiyyah en termes de noblesse, sans aller trop dans la discussion, etc., qu'Ibn al-Qayyim c'est son élève. Ça lui suffit en termes de noblesse. Cheikh il dit, fais donc attention aux serviteurs d'Allah, fais donc attention. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, surat al-Isra, verset 71. Cheikh, il dit, écoutez, et ça, là je promets, c'est la dernière page. veux-tu être ressuscité sous ton, son étendard, alayhi salatu wassalam? C'est important. Al-mar'oum aman ahab. Tu es avec, les gens sont avec ceux qu'ils aiment. Tu aimes un moubtadi, les gens de l'innovation, le kuffar, est-ce que tu veux être avec eux? Ou tu veux être avec le prophète, alayhi salatu wassalam, sahaba et les gens de la sunna? À toi de choisir ton camp. Comme il a dit un fameux Hizbi en France, il a dit choisis ton camp, mais nous on a choisi le bon camp. Hein? Eh bien quoi? C'est que tu dois choisir ton camp, tu voudrais être ressuscité sous l'étendard du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Et de faire partie des gens qui, yawma tabiyaddu wujuh, le jour où des visages seront quoi? Blanchis, illuminés. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il expliquait ce verset en disant quoi? Ce sont les gens de la sunna. Wa taswaddu wujuh. Le jour où des visages seront illuminés et des visages seront assombris. Il a dit, amma alladhina biaddat wujuhum fa ahl sunna. Wa amma alladhina swaddat wujuhum fa ahl bid'ah. Donc toi mon frère, avec qui veux-tu être? Toi ma sœur, avec qui tu veux être? Cheikh Ali, dépêche-toi et qu'Allah fasse que nous fassions ainsi que vous partie de ces gens-là qui sont sous l'étendard du prophète alayhi salatu wassalam. Dépêche-toi alors de mettre en application les jugements d'ordre et demande l'aide d'Allah pour cela, ne retarde pas et ne reporte pas. Et mets-toi à mettre en pratique les actes d'obéissance sans faiblesse. Crains Allah en privé et en public. Il est obligatoire aux serviteurs d'être persistants dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, comme cela est rapporté dans Musannaf ibn Abi Shayba, la science du croyant est dans son application et la science de l'hypocrite est sur sa langue. Et moi, je suis en train de dire ça alors que c'est moi qui parle ici. Et quand moi je vois ce genre de paroles, voilà, ça fait un poids dans la poitrine. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous fassions partie des gens dont il a dit la science du croyant est dans son application. Et pas par partie des gens dont la science, hein, qu'il a dit la science de l'hypocrite est sur sa langue. Ce qu'il veut dire, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est ce que le croyant sait et applique. Tandis que certains hypocrites savent, mais n'appliquent pas. Et c'est pour ça qu'Allah a blâmé ceux qui savent, mais n'appliquent pas. Qu'Allah me munisse ainsi que vous de piété, et fasse que je sois ainsi que vous parmi les pieux et les vertus, et qu'il nous bénisse, ainsi qu'à vous nos actions et notre durée de vie, et notre temps. Et je demande à Allah le Très Haut qu'il fasse que je sois ainsi que vous bénis, où que nous soyons. Il est certes le bienfaiteur par excellence, et le très généreux. Et on a fini ce cours. Et avant de clôturer, il y a des cadeaux ici apparemment. Où sont les cadeaux? Tu veux donner plusieurs cadeaux à une personne, toi?
Non.
Ouais. Donne-moi que la main droite, bad. Et c'est pas mieux qu'on donne chacun un petit, non?
Non,
ok. Hein? Comme ça, un peu tout le monde. Parce que regarde, tu vas avoir 5 personnes alors que tu pourras avoir 20 personnes.
Ça fait 20 questions.
Non, ouais, c'est faux. Ouais. Hein? Allez, je vais commencer par les femmes. Vous direz, ah, là, j'ai un délai, là. Hein, c'est des parfums d'hommes.
Wow.
Je vais prendre un livre alors. Le prophète a dit Istawsou bin Nisa Ikhira. Et Cheikh Falah, il commence toujours par les questions des femmes.
Comment tu
vas faire pour. Eh ouais, il y a peut-être un enfant qui peut venir vous amener la réponse. Et comme j'ai dit, à la fin, si on n'a pas de réponse, j'enverrai la moitié des cadeaux et se débrouille entre elles. Sans se disputer. Hein? C'est quoi le contexte historique? On a fait là sur la taqwa. Ça, c'est ma première question, c'est pour les sœurs. C'est quoi le contexte historique, en quelques mots, hein? Parce qu'on a vu un dalle sur la taqwa, on a vu la définition de la taqwa. C'est quoi le contexte historique dans lequel la définition de la taqwa qu'on a dite a été donnée? En quelques mots, vraiment, vraiment, quelques mots. Annie, je laisse le temps que les sœurs elles arrivent. Je vais commencer par les enfants ici. Il y a des enfants ou il n'y a pas des enfants? Des petits enfants, pas les grands. Hein? Vous voulez pas dire que vous êtes des enfants? Hein? Il y a des cadeaux pour vous. Hein? De quoi on a parlé? C'est quoi le sujet du cours? Allez les enfants, celui qui lève la main qui dit la réponse, il a un cadeau. C'est quoi le sujet du cours d'aujourd'hui? De quoi on a parlé? Un mot, juste un mot. Faut pas avoir honte, hein. Toi, dans le fond, là-bas, t'aimes bien le chocolat? Hein? Hein? Pourquoi tu réponds à ça? Tu réponds pas à la question. Tu connais pas la réponse? Oh, d'accord. Alors, je te pose une autre question. Où il est Allah? Allah, il est où?
Au ciel.
Tiens, viens chercher ton cadeau. Viens. Fils sa main au-dessus des cieux. Oh, bien sûr. Tiens, un livre. J'espère que tu le liras, Inch'Allah. C'est un livre sur les trois questions qui seront posées dans la tombe. C'est important. Hein? Et bon, encore une autre question pour donner un peu d'opportunité aux enfants. Je vais essayer de trouver quelque chose de facile pour eux, mais... Difficile hein, de poser des questions faciles. Allez. C'est quoi un taqwa? Juste en français. Quand quelqu'un dit taqillah, ça veut dire quoi? Viens. Tu vois, tu connaissais la réponse, t'as pas voulu la dire. Viens. On va peut-être pas lui donner le wasitiya. Hein? Tiens, mon frère. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit sur ce livre qu'il a rencontré quelqu'un un jour qui lui a dit qu'il faisait da'wa avec des gens avec qui il vivait, avec tous les problèmes en fonction de ce livre-là. Ce qui regroupe beaucoup de sujets dans la religion. Tiens. Et prends la main droite, Inch'Allah. Hein? Et ouais, les enfants, nous on veut vous donner, mais vous voulez pas prendre. Hein? Allez, qui sait parmi les enfants me citer un nom d'un savant? Parmi les anciens ou ceux qui vivent aujourd'hui? Ah, il ne faut pas l'aider là. Ah, t'as pas dit. Un savant, juste un savant. Il a, hey, je suis un prof, hein, je sais qu'il triche. Hein, Dak. Hein? Mais toi, t'as déjà eu un cadeau, toi? Et les sœurs, j'attends toujours la réponse. Si c'est plus facile pour elles qu'elles déposent un papier dehors et quelqu'un, un enfant, descendra prendre le papier. Si elle n'a pas de papier, alors elles sont pas prêtes pour le cours. Sauf que pour un cours, elles doivent avoir du papier. Le pêcheur, il va à la pêche sans filet. Alors, tu veux pas dire? Tu connais pas? T'es fatigué? Ok, c'est bien la bid'a, c'est bien. Bid'a, c'est bien. Viens, je te mets un cadeau, viens. Ouais, là, ça... Voilà. Ça va, Rami? Fatigué. Et moi, toi, on veut te donner quelque chose, tu veux pas participer? Non, arrête de regarder derrière toi. Ouais. Allez. Hein? Viens. Cheikh Ben Baz, t'as pas sorti n'importe lequel en plus, alhamdoulilah. T'as quel âge, 16 ans? Toi, t'es capable de lire ça, toi, tiens. Les frères, ils voient que les cadeaux, ils partent, là. Hein? Allez, je vais poser une question aux frères. Qui sait me rapporter la définition de taqwa par qui elle a été dite? Le contexte historique? C'est pas difficile. La définition, sans erreur, le contexte historique, résumé quelques... Et qu'est-ce que j'ai dit après? Par qui elle était dite? Ça fait trois. Et quel alim, il a dit que c'est la meilleure définition? Vas-y, t'fadal.
C'est lorsqu'on était venu lui demander comment
il fallait... Ibn Thabit, t'es sûr? Talq ibn Habib. Ouais, c'est lui, vas-y. Attends, elles sont sérieuses, elles ont répondu à la question des enfants.
C'était un enfant.
C'est peut-être un enfant, c'est vrai, tu as raison. Tiens. C'est pas une écriture d'enfant, vas-y. Non, va, Afwan.
Par rapport au fait qu'il y avait eu, on est venu lui poser une question, comment faire par rapport à ce qui s'était passé. Et là, il avait dit qu'il fallait qu'il fallait éteindre la fitna avec rapidité. Cheikh a donné une définition. Il a dit qu'il fallait. La définition, c'était la connaissance de Allah Azza wa Jal, la science qu'il nous a donnée.
Le mot, essaie d'être plus précis. C'est pratiquer l'obéissance d'Allah.
Ouais, pratiquer la...
Mais sur quoi? Avec ignorance ou avec?
Avec la science.
Avec science venant d'Allah. Et, ouais. Pourquoi?
Pourquoi?
Et en fait, c'est quoi? Pratiquer l'obéissance d'Allah? Comment? Avec science venant d'Allah? Pourquoi? Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, parce que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après? Et de quoi de, après encore, de
délaisser
les interdits comment
avec une science
qu'on regarde. Vous allez partager le livre alors. Hein avec une science. Voilà. Pourquoi l'autre. Tu délaisses la désobéissance, pourquoi? Par crainte du châtiment d'Allah. Maintenant, le contexte historique, tu l'as dit, la définition que tu l'as dite. Quel alim, il a dit que c'était la meilleure définition? Shtad, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Je viens de citer son nom plusieurs fois. Ça commence par Qa ibn al-Qayy. Hein? Peut-être que tu n'as pas l'habitude du nom. Ibn al-Qayyim. Hein? D'accord. Tiens, viens prendre un truc ici. Tu as ce livre-là sur l'Adkar Sabah al-Masad, sur Raslan. Tu l'as déjà? Tu as Adkar. Tu l'as l'Aqida al-Wasitiya. Et voilà, tu as parfait, quoi. Quel autre savant? Ça, c'est un petit cadeau. Quel autre savant, il a dit que c'était, il a cité cette définition-là. Je veux deux savants. Vas-y.
Ibn Kathir.
Ibn Kathir où?